va commencer Bezrat Hashem, notre premier shiur sur la lettre 22. Cette lettre 22, c'est une lettre qui est connue chez les Chassidim comme la lettre de Takanot Liozna. C'est ce que le... Juste s'il vous plaît, si on peut faire attention au bruit pour les voisins. Voilà. Désolé, on va essayer de trouver une solution, mais entre-temps... Donc, c'est Takanot Liozna, c'est l'Admorazaken habitait à Liozna. C'était la ville en Ukraine dans laquelle il habitait. Et
aux endroits, par exemple, ici, on a
Et donc, l'Admor Hazaken, Baruch Hashem, avec le temps, il a eu énormément de chassidim. Beaucoup de chassidim, bonsoir. Et il y avait tellement de chassidim qu'il n'était plus en moyen d'accueillir tout le monde. Très important ce qu'on va dire à Rabotaï. Parce que le thème de la lettre d'aujourd'hui, c'est une question très importante qu'on va se poser. C'est pourquoi, quand les gens ont des problèmes matériels, par exemple, ils veulent demander des conseils dans les affaires. Pourquoi ils vont voir les tzadikim? L'Admor Hazaken va se plaindre de ça. Il va expliquer comment, a priori, c'est pas logique. Mais on va expliquer quand même pourquoi les chassidim le font et quelle est la logique qui est derrière. Parce que la question qu'il va poser, il dit, mais pourquoi quand une personne a un problème dans les affaires, il vient me voir à moi?
Il parle à un chassid ou même pas à un
chassid? Non, c'est une lettre que l'on voit à tous les chassidim. Il dit, qu'une personne qui a une question en Torah, il vient me poser. Je comprends. D'accord? Merci. Mais quel rapport? Quelqu'un, il a des questions en business, est-ce que je me lance dans cette affaire ou dans cette affaire? Il va voir un tzaddik. Depuis quand un tzaddik comprend dans les affaires? Est-ce que vous comprenez la question?
Il voit
quoi? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Pour répondre à cette question, on va devoir retracer toute l'histoire depuis Moshe Rabbeinu. Depuis Moshe Rabbeinu, de voir dans l'histoire, est-ce que les Chachamim ont répondu aux questions dans les affaires, oui ou non? C'est une question très importante pour nous aujourd'hui. Allez, messieurs, les Chaim. Bon, David, je crois que mon gâteau, il embrouille, là.
Hein.
C'est pas grave.
Non, il
est en train
de brûler.
Moi, je ne peux pas avoir la moitié.
La moitié déjà. Il n'y a pas de moitié. C'est des complets poissons, il n'y a pas de moitié.
Moi, je ne peux pas manger trop de sucre, non.
C'est pas sucré.
Bah oui, qu'il y a glycémie, je ne veux pas faire attention.
On va faire demain dit.
De dire que la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une logique dans le fait d'aller demander à un tzaddik, d'accord, des questions sur des choses matérielles? C'est un petit peu que je me rappelle à la yeshiva, il y avait un rav qui nous donnait l'exemple. Il disait, c'est comme si tu rentres dans une pharmacie, une très grande pharmacie, et tu demandes de développer des photos. D'accord, maintenant le pharmacien, il peut être très doué, ça peut être le meilleur pharmacien de France, mais il va dire, désolé monsieur, j'aurais bien aimé vous aider, mais c'est pas mon domaine. Alors pourquoi quand tu vas voir un rave, tu vas lui poser une question, d'accord, dans le business, pourquoi le rave te répond pas, désolé mon ami, c'est pas mon domaine le business? Est-ce que vous comprenez la question? D'accord. Alors dans ce cadre-là, on va étudier donc la lettre numéro 22. La lettre numéro 22, c'est une lettre qui est très connue chez les chassidim, comme j'ai lu tout à l'heure, comme la lettre des Takanot Liozna, ce que l'Admor Hazaken a instauré, que Baruch Hashem, avec le temps, il y avait tellement de chassidim que tout le monde voulait venir voir le rabbi pour lui poser des questions sur tout, d'accord? Et que le rabbi s'est rendu compte qu'il pouvait plus accueillir tout le monde. C'était techniquement, c'était pas possible. Vous savez, chez les chassidim, la notion de yechidut, l'entrevue privée avec le rabbi, c'est quelque chose de très important. Mais malheureusement, avec le temps, c'était impossible d'accueillir tout le monde. Vous avez des gens qui venaient 2, 3, 4, 5, 6 fois par an. Et techniquement, c'était pas possible. Donc l'Admor Hazaken a essayé de réduire le flot, d'essayer d'organiser. Mais malheureusement, il n'arrivait pas. Parce que tout le monde voulait poser sa question directement au rabbi. Alors il a commencé à leur dire, écoutez, posez d'abord au rabbin de votre ville. Et si la réponse et s'il n'arrive pas à trouver la réponse... Venez me voir, mais concrètement, ça se passait pas comme ça.
Attends, c'est pas comme maintenant.
Oui, mais sûr. C'est pareil, c'est le même problème. Ce qu'on va étudier aujourd'hui, j'expliquerai après qu'on a eu, pratiquement la même chose chez tous les rabbis. Ce même phénomène, qu'à un certain moment, on est obligé de mettre des limites.
Non, mais recevez moins de monde, le Morazaken.
Énormément de monde, il recevait. Le Morazaken, par rapport à ses effectifs, il recevait énormément de monde.
Autant que le rabbi,
Le rabbi, c'est beaucoup plus, mais même le rabbi, on a vu au début, il recevait les gens, après il donnait le dollar, après, il a dû réduire, c'était obligé. Et donc l'Admor Hazaken dans cette lettre qu'on va développer, c'est seulement un morceau de la lettre. Là, ici j'ai l'original, ça veut dire c'était toute la lettre. Là, on n'a que la partie de Vartora de la lettre. Ici, c'est tout l'aspect historique de la lettre. Donc il s'adresse à tous les gabaïm, ça veut dire à tous les responsables des communautés de Chassidim. Et il leur demande, il leur dit, je vous en prie, faites passer le message. Et assurez-vous de demander que les gens essayent de me voir le moins possible pendant l'année, parce que c'est pas possible. Au moins ceux qui veulent venir, tavalechem bracha, d'accord, merci. Mais ceux qui viennent pour demander des questions, Je peux pas recevoir tout le monde, c'est pas possible. Et il dit dans cette lettre, il dit, il y a des mots très durs qu'on ne va pas voir dans la lettre ici, mais je vous dis qu'ils sont dans l'original, parce que là, c'est seulement l'aspect toranique qu'on va développer ici dans cette lettre. Il dit que ça me fait de la peine quand je vois que quelqu'un arrive et que son temps est limité, c'est-à-dire il te vient pour 2-3 jours, il veut être reçu, et il n'est pas reçu. Il dit, ça me fait de la peine. Il emploie même le terme « harali admavet ». Ça veut dire, ça m'énerve des fois à tel point que je me dis, est-ce que ce serait pas mieux que j'aurais été pas là ? Imaginez le sentiment qu'un rabbi, c'est très rare, hein. C'est une lettre dans laquelle Admor HaZaken, vous allez voir, très rare qu'un tzadik s'ouvre comme ça et qu'il raconte ce qu'il pense à l'intérieur. En général, il s'occupe des autres. Et là, pour la première fois, il raconte ce qu'il pense à l'intérieur. C'est très très rare comme lettre. Et donc, c'est pour ça qu'il demande au chassidim, il leur dit, je vous en prie, essayez de réduire au maximum. Et même, il raconte dans cette lettre, ça, pas dans la partie qu'on va étudier ici, il raconte dans cette lettre que, à certains moments, tellement ça lui faisait de la peine de voir qu'il y avait des chassidim qui venaient, et qu'ils essayaient d'être reçus, mais que techniquement c'était pas faisable, et qu'il restait 2, 3, 4, 5 jours et que c'était pas faisable, il dit tellement ça me faisait de la peine de les voir partir avec de la peine comme ça, que je me suis dit peut-être c'est mieux que je m'exile. Que j'aille en Israël, que j'aille dans un endroit dans lequel il n'y a pas ces problèmes-là. Parce que ça lui faisait de la peine de voir ça. D'accord? Et comme ça qu'il a dit.
Oui, mais Israël, c'est pas l'exil.
Non, l'exil par rapport à ça. Par rapport à ça, par rapport au Kaal.
Oui, mais
je m'exile d'où je suis.
D'accord?
Il aurait eu les mêmes problèmes au fil du temps, non?
Il aurait eu? Peut-être, certainement. Ça veut dire, on va voir l'humilité de l'Admor HaZaken. Tu comprends, il réfléchit pas comme une star. Une star, il dit, ah, t'as vu le monde. Ils arrivent, ils font la queue pour venir me voir. C'est comme ça qu'ils réfléchissent les stars. Ça veut dire que quand tu vois qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi à rentrer chez eux, il dit, t'as vu, je suis tellement occupé que les gens, ils viennent et c'est même pas sûr qu'ils vont réussir à me voir. Mais non,
un tzadik. Qu'il devait pas le rencontrer tout de suite, sinon.
Non, c'est ce qu'il a expliqué. Un tzadik, il réfléchit pas comme ça. Un tzadik, il réfléchit de manière pragmatique. D'accord? Heureusement qu'il réfléchit pas comme ça. Un tzadik, il réfléchit de manière pragmatique. Il dit,
tu vas voir un tzadik.
D'accord? Non, c'est pas que je peux pas. C'est qu'il dit, on a un problème, il faut le solutionner. Et donc, pour solutionner ce problème, avant même de solutionner ce problème, l'Admor HaZaken va essayer de catégoriser. De dire pourquoi on doit venir me voir. Mais ce que je dois vous dire d'emblée avant de commencer cette lettre, c'est que les chassidim n'ont pas écouté l'Admor HaZaken sur ça. Et on expliquera après une lettre du rabbi qui va expliquer pourquoi les chassidim n'ont pas écouté l'Admor HaZaken. D'accord? Dans cette lettre, l'Admor HaZaken, voilà, je vous donne en gros le développement de cette lettre, il va leur amener plusieurs preuves de plusieurs grands, depuis Moshe Rabbeinu, pour prouver qu'un tzadik, on ne doit pas lui demander des questions matérielles. Donc avec ça, il veut essayer de réduire le flot de questions.
Pour que les gens hésitent à aller le voir pour
voilà.
Pour dire...
Voilà, disent, bon, vous voulez demander une question de Torah, je comprends.
Ouais.
D'accord, mais...
Je suis là pour ça.
Je suis là pour ça, d'accord. Ouais, mais tu veux te lancer dans les affaires, tu me dis, est-ce que j'achète cette affaire ou cette affaire? Ouais. Écoute, donc il essaye de réduire le flot. D'accord. Donc tout ça, rappelez-vous, c'est, ne perdez pas de vue, c'est pour par rapport au problème technique qu'on a, que techniquement, on peut pas recevoir tout le monde, c'est pas possible.
En faisant comment, en disant je sais pas.
Non, il dit pas je sais pas. Il dit, vous me posez la question, je peux vous donner une réponse en tant qu'ami, mais je suis pas là pour ça. Et on va voir plus tard que les chassidim ne l'ont pas écouté. D'accord. Et on va expliquer comment en vérité, l'Admor HaZaken plus tard, à la fin de sa vie, il a écrit une autre lettre, dans laquelle il explique que il est content que les chassidim ont continué quand même à venir lui demander même les questions matérielles et qu'en vérité les chassidim avaient raison. C'est-à-dire que pendant longtemps, dès qu'un chassid, il hésitait 1000 fois avant de venir poser une question matérielle au rabbi. Lui dire, est-ce que je me fais cette affaire, est-ce que je lance cette affaire? Il hésitait 1000 fois parce qu'il dit le rabbi, il a dit qu'il veut pas. Et quand il venait le faire, le rabbi répondait quand il posait une question, mais il se sentait un peu effronté. D'accord? Et là, on va voir dans cette lettre, vous allez voir comment c'est magnifique, comment il va développer ça. En vérité, c'est des choses qu'on vit tous les jours. C'est une question que j'entends très souvent, ça. Les gens qui disent, mais quel rapport entre un rabbin et les problèmes matériels? Il n'y a pas de rapport. Chacun son domaine. D'accord? Le business, c'est pour les businessmen. La Torah, c'est pour les rabbins. Quel rapport entre les deux? Pourquoi on mélange? C'est ce qu'on va voir dans cette lettre.
Je vais demander un conseil.
Oui, mais tu viens demander un conseil à quelqu'un qui est du métier.
Mais là, c'est pas un rabbin, c'est un rabbin.
D'accord? Je vais pas demander un conseil en photo à un pharmacien. Ouais. Même si le pharmacien est un très bon ami, il va me dire, écoute, je t'aime beaucoup, mais rabbi, la photo, alors c'est quoi un rabbi?
Il est capable de tout.
Pourquoi il est capable de tout?
Des fois,
c'est quoi un rabbi?
Je t'avais dit. Des fois, tu exposes ton problème à quelqu'un.
Quel? Alors, des fois?
Des fois, t'as un problème, tu l'exposes à quelqu'un, et lui, il va, de façon pragmatique, il va mettre les choses à plat, il va dire, mais moi, j'aurais fait ça comme ça. Ah tiens, j'y ai pas pensé. Et un rabbi peut apporter ce genre de choses par sa forme de pensée.
Alors, je vais vous raconter une histoire. Une fois, il y a un chassid qui a posé une question à son rabbi. Rabbi Rachab, c'était le petit-fils de l'arrière-petit-fils, pardon, de Admor HaZaken, l'auteur du Tania. Il a posé une question, il a dit, est-ce que je me lance cette affaire ou pas? Le rabbi lui a dit, ne te lance pas dans cette affaire. Non, ne te lance pas. La tentation était trop forte, parce qu'il y avait des grosses marches. Il s'est lancé dans l'affaire. Et bien sûr, il s'est cassé la figure. Non, il s'est cassé la figure. Bah, non, il a dit n'y fais pas. Il a dit n'y fais pas, ne le fais pas. Et il l'a fait quand même parce que la tentation était trop forte. Il a essayé de convaincre le rabbi. Rabbi, écoutez, regardez ce qu'il a gagné, etc. Non, mais moi, je te dis, c'est pas pour toi. Il s'est lancé. Il s'est lancé et bon, bien sûr, après, il s'est ramassé, il s'est cassé la figure. Et donc, il est venu voir le rabbi. Bon, parce que quand même, une fois qu'il est à plat, il est venu voir le rabbi. Il dit, écoutez, rabbi, vous avez raison. Je voulais m'excuser de ne pas vous avoir écouté.
Non, pourquoi vous n'avez pas insisté?
Alors, le rabbi, il lui dit comme ça. Le rabbi Rachab, il lui dit comme ça. Il lui dit, je comprends pas. Bonsoir. Il lui dit, je te comprends pas. Il lui dit, les gens, ils viennent me voir. Je me suis posé la question, et j'ai même posé la question aux gens, pourquoi ils viennent me voir? Il y en a qui m'ont répondu, ils m'ont dit, comme vous êtes intelligent, donc c'est un peu votre réponse, comme vous êtes intelligent, donc vous allez peut-être voir des choses que moi j'ai pas vues. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit, comme vous avez reçu beaucoup de monde, donc avec l'expérience, peut-être que, avec toute cette masse d'expérience, donc, vous pouvez donner des réponses, penser à des choses que moi je pense pas. Il y a une troisième catégorie de personnes qui m'ont répondu, mais quoi, mais comme il a dit, mais vous êtes un rabbi il connaît tout. Il lui dit, toi je te connais, toi tu me connais, tu sais que j'ai les droits. Tu sais que, et je suis intelligent, et j'ai de l'expérience, et je suis un rabbi. Et avec ça, t'as fait l'affaire, tu m'as pas écouté. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quand je trouve cette histoire magnifique, parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire? On voit dans cette histoire que, pourquoi on va voir un rabbi? Vous voyez les trois réponses qu'il a données? Pourquoi les gens vont voir un rabbi? C'est la grande question. Pourquoi tu vas voir un rabbi? Qu'est-ce qu'il a le rabbi? D'accord? Alors t'as des gens qui vont te dire, parce qu'un rabbi, c'est quelqu'un qui est intelligent. Donc il va trouver des choses que tu trouveras pas. T'as des gens qui vont te dire, il a de l'expérience, parce qu'il a vu beaucoup de monde passer. Et en général, les gens, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont dire, bah, c'est un rabbi, il est kadosh. Et certainement, je sais pas, il a accès à des informations que nous, on n'a pas. D'accord. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui maintenant.
La plupart, c'est ça.
Vous allez voir que dans cette lettre, Admor HaZaken, a priori, de premier abord, ne va pas être d'accord avec cette approche. D'accord? Mais encore une fois, comme je dis, après, on expliquera. Bonsoir. Après, on expliquera pourquoi.
Merci.
D'accord?
Merci.
T'as vu, on a une belle recrue aujourd'hui, hein.
Deux belles recrues. On a aussi M. Tudou.
M. Tudou, il m'avait dit déjà. Hein? Non, que t'allais être là. Il reste encore ou pas? Oui, on en a un, Michael.
Oui, bien sûr, c'est prêt déjà.
Ok. Alors, on y va. Ça, c'était que l'introduction. Maintenant, on va rentrer dans les mots. Allez, on y va. Aouvaï, achai, verehai. D'accord? Allez, chers amis, ça, c'était que l'introduction. Maintenant, on rentre dans les mots. Il reste encore un Tania ici. Aouvaï, achai, verehai. Mes amis, d'accord? Mes frères. D'accord? Et mes aimés. Ça veut dire que, donc, ça veut dire, il s'adresse au chassidim, mais vous savez, quand une personne commence une lettre en disant, mon ami, mon frère, et celui que j'aime, s'il commence ça, ça veut dire qu'il va le, c'est-à-dire que ça prépare une, bah oui, d'accord. Non, ça veut dire qu'il lui prévient, il lui dit, écoute, on va taper un petit peu, mais je te préviens que je le fais par amour. D'accord? Mamash, il le fait par amour. Il dit, mais ava, mais sous terre, et t'aurat, mais goulé. Ce que je vais faire maintenant, ça va être de manière dévoilée, ça veut dire extérieurement, ça va avoir l'air d'une tochacha. Une tochacha, c'est quoi? C'est un reproche. Mais en vérité, ça vient d'une ahava mesuteret, d'un amour que j'ai au fond de moi, envers vous. Ça veut dire qu'entre un rabbi et des chassidim, entre un maître et des élèves, il y a un amour profond. Mais des fois, quand on va devoir taper sur la table, l'amour, on le verra pas forcément. On va voir une reproche, on va voir de la gvoura, de la rigueur. Mais il dit, écoutez, ce que je vais dire, ça va être peut-être avec de la rigueur, mais sachez qu'en vérité, ça vient d'un amour profond que j'ai envers vous. C'est quoi? Le chouna venivacha. Venez, on va discuter. Zichou yimotolam binushnot dorvada. Il dit, écoutez, nous, quand on a un problème chez les Juifs, Baruch HaShem, on a de l'expérience, ça veut dire qu'on a la Torah. Quand on a un problème, on ouvre la Torah, on ouvre la Gemara, on ouvre le Chumash, et on voit, est-ce que ce problème est déjà arrivé à nos ancêtres? Et on voit comment ils l'ont solutionné. Une des grandes forces du Ham Israël, c'est quoi? C'est notre mémoire. Ça veut dire que on n'est pas les quand tu passes par un problème, t'es pas le premier à être passé par le problème. Donc il dit, écoutez, on a un problème. On a un problème, c'est que techniquement, on peut pas. On va essayer de voir comment nos maîtres ont solutionné ça. Donc il va essayer de retracer depuis les maîtres de la Gemara, depuis les prophètes, depuis Moshe Rabbeinu. On va parler de tout ça. Il va dire, écoutez, on va voir comment ils ont solutionné ce problème. On n'est pas les premiers, on n'a pas inventé la roue, on n'a pas découvert l'Amérique. Les problèmes qu'on a, ils ont probablement dû les avoir. Moïse a dû les avoir. Alors comment il a fait Moïse? Comment ils ont fait les maîtres de la Gemara? Leurs élèves ne leur posaient pas des questions? Comment ils ont fait? Alors regardez ce qu'il expliquait. Alors il dit à ses chassidim, il dit Zichou Yimot Olam. Donc on va essayer de revenir. Yimot Olam, ça veut dire de retracer l'histoire en arrière. Binushnot Dorvador. Et on va remonter de génération en génération. Et je vais vous poser une question très simple. Aïta kazot mimot olam. Est-ce que ça a déjà existé une chose pareille? Ve aye efo metzatem minagze. Où vous avez trouvé ce minag? Be'echad nikol tifrei chachmei Israël arishonim acharonim. Je vous donne le défi de trouver ce minag dans tous les livres d'Israël, les rishonim, les acharonim. Liot minag vatikin, lishol be'etzak hashmiut. Donnez-moi, expliquez-moi, où vous avez vu dans la Gemara, dans la Mishnah, où vous voulez, dans le Chumash, qu'on vienne demander à un tzaddik des problèmes matériels. Kedat mala asot beignani aolam agashmi. Où vous avez vu qu'une personne a un doute à ce qu'il soit dans une affaire, une personne a des problèmes matériels, des problèmes comme on a tous, d'accord? Et va demander à un tzaddik, où vous avez vu ça dans la Torah? Dans la Gemara? Walou. Mishnah? Walou. Chumash? Walou. Y'a pas. Alors d'où ça sort? D'où vous sortez ça? Et maintenant on va retracer. Non, même Moshe Rabbeinu.
Il ne venait pas venir.
Non. Moshe Rabbeinu, on est venu le voir seulement quand on avait un problème, par exemple, on n'avait pas de quoi manger. On était dans le désert, on n'avait pas de quoi manger. On dit, écoute, toi qui nous amène dans le désert, prie à Dieu pour qu'il nous donne à manger. Ça, c'est du ressort de Moshe de prier à Dieu. Mm-hmm. Tu comprends? Donc ça rentre dans son domaine.
Alors pourquoi il trouve la.
Mais par exemple, on n'a jamais vu qu'on est venu demander à Moshe Rabbeinu, on dit, écoute, voilà, on a amené de l'Égypte, on a amené de l'or, de l'argent, d'après toi, comment on le place? C'est pas son domaine.
Non, pourquoi il trouve la séparer?
Bien. Bien que quoi?
Il a fait des.
Ça c'est juste dans les questions de Halakha déjà.
Donc il y avait déjà.
Déjà dans les questions de Halakha. Mais moi, là il parle même pas des questions de Halakha. Il dit moi avant ça parce que dans la lettre ici il raconte il s'est rendu compte que plus de 50% des demandes c'est des questions matérielles, c'est-à-dire des questions qui n'ont rien à voir avec un rabbin. Donc il dit où on a trouvé ça. Mais encore une fois, n'oubliez pas la suite, qu'en vérité, on doit le faire.
C'est même déplacé d'aller voir que pour ça.
Exactement, c'est même déplacé. Bah, ouais. Quel rapport avec lui? T'as une question à lui demander, demande-moi.
C'est déplacé. Enfin,
oui. Il a raison.
Mais fondamentalement, c'est déplacé.
Quel rapport? Pourquoi tu veux demander ça? Quel rapport?
Quand tu as un truc comme ça, tu dis comment ça va aller et tout ça, et qu'en même temps, tu parles de ton affaire.
Non, vous voyez, encore une fois, là, un problème de santé, on peut comprendre. Par exemple, quand les docteurs disent on ne peut plus rien faire, et donc là, on va demander à un tzaddik de prier, c'est de son ressort. On est d'accord. Mais par contre, quand il y a par exemple le docteur qui dit, écoutez, je ne sais pas s'il faut faire l'opération comme ci ou comme ça. C'est une question physique, une question médicale. Quel rapport avec un tzaddik? Pourquoi tu as demandé un tzaddik? Quel rapport? En quoi il va donner la réponse? D'accord. C'est déplacé a priori. Il dit donc, on va revenir maintenant dans le temps. Il dit, Aflo Ligdole Chachmei Israël Arishonim. Il dit, regardez, on va parler par exemple des plus grands maîtres qu'on a eu. Ketanaïm et Amoraïm. On a eu les maîtres de la Mishnah, ça c'est les Tanaïm. On a eu Amoraïm, c'est les maîtres de la Gemara. Et sur eux c'est écrit Asher Kol Raz Lo Anisleu. La Gemara Chulin témoigne qu'il n'y avait aucun secret qui était caché pour les maîtres de la Gemara et les maîtres de la Mishnah. Ça veut dire que s'il y a déjà une personne à qui on devait poser les questions, c'est des gens comme ça. C'est des gens qui n'avaient, il n'y avait rien qui était un secret pour eux, ils connaissaient tout. D'accord? Uneirin Lonchvilin Derakia. On dit que ces gens-là, les chemins des cieux, leur étaient clairs comme les chemins de la rue. Ça veut dire que c'était des gens qui avaient une parfaite connaissance du monde, d'Akadajoro, de ce que tu veux. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a vu? Jamais on a vu dans la Gemara qu'on est parti les voir pour leur demander des questions. Est-ce que je me lance dans ce business ou pas? Jamais. D'accord? Donc, en d'autres termes, la question, je vais essayer un petit peu de moderniser la question. La question qu'il pose ici, c'est est-ce qu'on n'a pas rendu le tzaddik un petit peu un coach? C'est ça la question qu'il pose.
Conseiller financier.
Voilà, un conseiller, d'accord? Ça veut dire un conseiller, mais quel rapport? C'est pas son domaine.
Conseiller fiscal.
Donc
gourou.
Il dit, Un gourou. Bah oui, quel rapport? Gourou, c'est pas ça. Gourou, c'est une.
En fait,
j'ai pas dit gourou, parce qu'un gourou, t'as pas de libre arbitre avec lui. Là, le tzaddik, il te laisse le libre arbitre. Mais tu demandes un conseil à une personne qui c'est pas son domaine. Alors quel rapport? Est-ce qu'on n'a pas déplacé le rôle d'un tzaddik?
Pas beaucoup. Hein,
est-ce que vous comprenez la question ou est-ce que je redéveloppe encore?
Non.
D'accord, c'est une question qui est logique. Donc il dit, regardez, il dit, on va revenir dans le temps. Les plus grands maîtres qu'on ait connus, c'est qui? C'est les maîtres de la Mishnah, les maîtres de la Gemara. Ces maîtres-là, la Gemara témoigne qu'il n'y avait aucun secret qui leur était caché. C'est-à-dire qu'ils pouvaient te répondre sur tout et n'importe quoi. Ils étaient capables de trouver tout et n'importe quoi dans la Torah. Tout. Il n'y avait rien qui était secret pour eux, rien qui était caché pour eux. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on ne leur a jamais demandé des choses matérielles. À qui on demandait les choses matérielles? Regardez ce qu'il dit dans les mots. Il dit qu'Im les Navi Mamash. On demandait les questions matérielles seulement aux vrais prophètes. Pas aux Chachamim. Pour ceux qui étaient là dans les cours précédents, on avait expliqué la différence qu'il y a entre un Chacham et un Navi. D'accord? Que c'est pas la même chose, c'est pas le même poste. Donc il dit qu'Im les Navi Mamash. on posait la question seulement au prophète. Il donne des exemples. Kishmuel Aroé. Il dit, regardez, par exemple, on sait qu'on nous raconte dans Shmuel, d'accord, dans les livres de Samuel, qui est dans les 24 livres de la Bible, on raconte qu'une fois, Asher Alav Elav Shaoul, Lidrosh Hashem Advar Atonot Shenevdou Le Aviv. Vous connaissez l'histoire de Shaoul, Saül, une fois, son père, il a perdu les ânes, il n'arrivait pas à les trouver, il ne savait pas si c'était volé, si c'était perdu. Donc il est venu voir Shmuel, et Shmuel lui a dit, les ânes sont là-bas et là-bas. Comme ça. Mais qui était Shmuel? Shmuel était un prophète. Donc là, à la limite, on peut comprendre le fait qu'il est venu lui demander quelque chose de où se trouvent mes ânes. C'est une question qui est matérielle chez matérielle, ça. Mais pourquoi il est parti lui demander? Parce que c'est un prophète. Un prophète, il est dans son poste. Un prophète, son poste, c'est de donner des informations. Mais il dit, mais quand c'est pas un prophète, quand c'est même des maîtres de la Gemara, des maîtres de la Mishnah, des Rachamim en général. Les Rachamim ne sont pas des prophètes, c'est pas leur poste. Un prophète, c'est autre chose. Un prophète, c'est quelqu'un qui voit l'avenir, que Dieu lui donne des informations. Mais un Racham, c'est pas ça. Un Racham, c'est quelqu'un qui comprend la Torah. En quoi, quelqu'un qui comprend la Torah, tu viens lui demander des conseils dans les affaires? Quel rapport? Il n'y a pas de rapport. D'accord? Donc là, vous voyez comment il développe sa question. Il dit, Kibemet, car en vérité, Kol inyane Adam, levad midivrei Torah v'yirat shamayim, ena musagim rak benevoua. Il dit, en vérité, à part la Torah, tout ce qui concerne la Torah, et yirat shamayim, la crainte de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui concerne le mitzvot. Par exemple, je vais voir un tzaddik, je vais lui dire, écoutez, j'ai du mal à maîtriser mes pensées. Est-ce que ça c'est du ressort d'un tzaddik? Ça oui. Parce que c'est la crainte de Dieu. Donc j'ai du mal à maîtriser ma crainte de Dieu. Ça c'est pour le tzaddik. J'ai pas compris quelque chose en Torah. Ça c'est du ressort d'un tzaddik. Ça oui. Mais tout le reste, d'accord, personne maîtrise, c'est de la prophétie. Alors regardez, c'est magnifique ce qu'il a expliqué ici. Il dit, comme c'est écrit, « Lo lachachamim lechem ». Il y a un verset dans Kohelet du roi Salomon qui dit que les sages n'ont pas de pain. Ça veut dire quoi que les sages n'ont pas de pain? Alors les gens comprennent ce verset en général pour dire que c'est pas parce que t'es intelligent que tu vas gagner ta vie. Que des fois, t'as des gens archi-bêtes et qui gagnent très bien leur vie, et t'as des gens très intelligents avec des grands diplômes qui gagnent pas leur vie. C'est comme ça que les gens comprennent ce passage-là. Et là, il donne encore un autre chat, il donne une explication. Il dit, ça veut dire quoi le lachachamim lechem? Ça veut dire que c'est pas un chacham que tu vas poser la question comment on gagne du pain. C'est pas son poste. Un chacham, tu vas lui poser la question sur quelque chose de chorma, sur la Torah, sur des choses qui le concernent, mais pas sur le pain. Le pain, c'est pas son domaine, c'est pas son métier. Quel rapport avec lui?
Il est pas boulanger.
K'ma'amar abotelo zichonam livracha. Comme les chachamim disent, akol bide shamaim, chutz meirat shamaim. Que tout est dans les mains de Dieu. Ça veut dire, là, en vérité, il va toucher une question encore plus profonde. Il dit, attends, ça veut dire quoi? Dieu, il a envoyé un problème. D'accord? Par exemple, tu arrives dans une affaire, tu veux savoir est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais ça. Est-ce que tu as la émouna que tout est dans la main de Dieu?
Oui.
Oui. Ah, pourquoi tu vas demander un tzaddik?
Mais pour savoir quel chemin prendre.
Mais attends, j'ai compris. Mais ça veut dire quoi? Tu vas avoir une information de Dieu?
Bah, ouais. Écoute, hein.
Ça veut dire que tu crois, attends. Ça veut dire que tu crois qu'il y a une information que Hachem va donner au tzaddik qui ne te donne pas à toi?
Oui. Non, c'est que le tzaddik lui peut voir la forme. Il y a des choses qui, il envoie des signes. Il y en a qui savent lire ces signes, il y en a qui savent pas lire ces signes.
Mais le tzaddik, c'est pas un prophète.
Non, mais.
C'est un racham.
D'accord, mais.
On a dit que le rabbi était quand même.
On pose la question d'abord. Il dit, regarde, il dit, c'est très simple. Il dit, tout est dans les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Ça veut dire, est-ce que ton affaire, elle va marcher ou elle va pas marcher? Qui c'est qui maîtrise ça? C'est Dieu. La seule chose que moi je maîtrise, c'est est-ce que je crains Dieu ou je crains pas Dieu? Est-ce que je fais les mitzvot ou je fais pas les mitzvot? C'est la seule chose sur laquelle je lui remise. Mais quand je me lance dans une affaire, est-ce que l'affaire va marcher ou l'affaire ne va pas marcher? Personne ne peut maîtriser, ni moi, ni le tzaddik, ni personne au monde, personne. Ça veut dire, c'est pas parce que le tzaddik a dit ton affaire va marcher que l'affaire va marcher. Bah oui.
C'est pas sympa.
C'est pas bon ça.
Il faut aller le voir.
Il y a un problème. Il faut dire les chayim, David. Hein.
Les chayim.
Il est parti là-bas déjà.
Il faut dire les chayim parce qu'on parle des grandes choses. Hein.
On parle business.
Non, il faut être sûr que j'ai les bonnes paroles qui sortent de ma bouche.
Oui.
Vas-y, alors vas-y, vers.
C'est bon.
Les chayim. Les chayim, les chayim. Le Kadosh Baruch Hu vous donne à tous, d'accord, du nachat, de la satisfaction, de la famille, des enfants et de soi-même. Les chayim, les chayim.
Allez, un petit peu.
Tu finis là.
C'est bon. Nickel.
Pour Marcel.
C'est un bon. Tu finis là.
Mais des fois,
oui.
Tu peux demander un avis.
Sans bloquer. Je peux demander un quoi?
Un avis.
Un avis? Un avis quoi? Un avis, un prophète?
Un
avis. AVIS, d'accord, oui. Oui, bah oui. Il est pas là, ce biscuit.
Comme tu peux, quand t'as un problème, tu en parles à plusieurs personnes, et puis des fois, ça t'ouvre.
C'est ça un tzaddik pour vous? C'est quelqu'un qui en demande un avis? Alors, c'est quoi un tzaddik? Non, mais faut être honnête.
Comme un coach, tzaddik, c'est quelqu'un qui gagne en collection. D'une façon ou d'une autre.
Alors quoi? Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon but? Soyons clairs, c'est quoi mon but?
Le but, c'est de gagner de l'argent. Donc, il veut être sûr de gagner de l'argent ou pas gagner de l'argent.
Marcel, il voit droit.
Non, t'as des gens qui vont dire, je mets toutes les chances de mon côté. Non, mais franchement.
À ce que tu prennes la meilleure décision.
On est tous d'accord.
Pourquoi? Qu'est-ce que tu comptes obtenir du Sadiq? Qu'est-ce que tu vas donner le Sadiq de plus que tu n'as pas?
Les numéros du loto.
J'ai un conseiller financier. D'accord? Qui me conseille. Qu'est-ce que va me donner plus le Sadiq que le conseiller financier?
Une bracha. C'est tout.
C'est quoi la bracha?
La bracha, c'est de réussir. C'est une bracha pour réussir.
Mais pour... Le Sadiq, non, c'est... Attendez, mais Dieu a décidé qu'il va réussir ou pas?
Non, mais venant d'un Sadiq, il peut faire une bracha.
Oui, qu'est-ce qu'il fait?
Mieux.
C'est-à-dire quoi, ça passe mieux? Il débloque des fonds?
Non. La bracha. La bracha.
Ça veut dire s'il se trompe, tu ne veux pas lui.
Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a décidé?
Tu vas être ultime. Je ne sais pas ce qu'il a décidé.
Si le Tzadik, il dit, genre, je vais vous raconter une histoire. Une fois, il y avait une histoire qui est difficile à comprendre, mais que Bezrat Hashem, dans la suite du cours, on comprendra. Une fois, il y a plusieurs chassidim qui étaient rassemblés. Chacun avait son rabbi. Et chacun voulait raconter une histoire de son rabbi, pour dire, bon, entre guillemets, c'est personne ne le disait ouvertement, mais chacun voulait montrer mon rabbi, c'est le plus grand rabbi. Alors c'est une histoire qui se passe en Russie. Et chacun commence à raconter, un il raconte, il dit, moi, il y a quelqu'un qui est venu voir mon rabbi, il n'avait pas d'enfant, ça fait 15 ans, et bah, il est venu voir le rabbi, 9 mois plus tard, il a un bébé, chacun raconte une histoire. Et un dernier, il raconte une histoire, il dit, moi, j'ai demandé à mon rabbi, est-ce que je devais me lancer dans une affaire? Le rabbi m'a dit oui, je me suis lancé, et j'ai tout perdu. Bon. Et il s'arrête. Je dis, ben, il dit, ben, le miracle, c'est que je suis quand même resté son chassid. Ah, ouais. Attendez, attention, c'est une histoire très profonde. Ah, oui. C'est quoi? C'est très profond. C'est quelqu'un qui a réussi à, dépasser le stade, mais on va le développer, ça. Le stade matériel que je demande à un tzadik, ça veut dire, je demande à un tzadik pour les conseils matériels, et le jour où les conseils sont plus populaires, eh ben, on ira voir un autre. On change de docteur. Mais il faut expliquer. La question qui est posée, il dit, mais quel rapport avec un tzadik? Pourquoi tu vas le voir? Tu veux obtenir quoi? D'abord, on n'a jamais vu ça dans l'histoire, numéro 1. Numéro 2, si Dieu a décidé que ça va marcher ton affaire, alors pourquoi tu vas voir le tzadik? Tu veux une bracha? C'est quoi? Une bracha ou un conseil?
Pardon. Une bracha compte tenu de sa sainteté, lui demander une bracha pour la réussite.
D'accord.
Proche, voilà.
Maintenant, maintenant, monsieur Ben David, est-ce que vous envisagez de demander à un tzadik, vous devez par exemple racheter... vous devez par exemple... Attendez.
Tu vas déjà le faire.
Une
analyse des risques et tout.
Moi, j'ai pas dit ça.
Vous devez prendre un employé, un nouvel employé. Est-ce que vous allez, irez demander à un tzadik, est-ce que je prends l'employé, oui ou non?
Je n'ai pas de...
Eh bien, les chassidim font ça.
Bon, mais moi, je dis, j'irai chez le tzadik, je lui demanderai, compte tenu de sa sainteté et tout, de me bénir parce que je suis sur une action. Point.
D'accord, c'est comme un avocat.
Non, non, c'est une bénédiction que je.
C'est quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction?
Moi je vois comme ça.
Comment dirais-je?
Attends, je vais répondre à la question d'abord. Qu'est-ce que Dieu avait prévu avant la bénédiction et qu'est-ce qui va changer avec la bénédiction? Il faut être clair.
Non, alors justement, c'est comme si.
Mais qu'est-ce que je pense? Pourquoi je vais voir le tzadik alors dans ce cas-là?
C'est comme si je demandais des encouragements.
Attends une seconde, je vais répondre à la question d'abord.
Tu dois courir, tu dois faire un parcours.
Moi, je suis un monsieur qui croit beaucoup en la Torah, oui. En la tzadikim. Avant de faire un pas ou créer une affaire ou n'importe quoi, je voudrais une bénédiction, ne serait-ce d'un rab que je connais. C'est tout.
C'est pas un conseil.
Je ne rentre pas dans la technique. Je rentre uniquement dans la sainteté. De façon
donc c'est quoi une bénédiction? Bénédiction c'est autre chose. Une bracha c'est autre chose. C'est quoi une bracha? Une bracha c'est que je demande, c'est qu'en vérité je considère que Dieu a déjà prévu de me donner si Dieu veut tout ce que j'ai besoin, mais que peut-être avec mes avérotes alors je suis pas la meilleure personne pour présenter mon projet devant Dieu. Donc je dis au tzadik, écoutez, vous êtes un bon avocat, venant de votre part Dieu. D'accord. Ça c'est une bracha. D'accord.
C'est tout ce que je demande.
Mais les chassidim font plus que ça. Pas que les chassidim d'ailleurs.
D'accord.
Hein? Ils demandent à leur rabbi, ils demandent à leur rave, est-ce que je me lance dans cette affaire? Est-ce que je me lance pas?
Oui,
d'accord? C'est beaucoup plus complet. Oui. Et ça, c'est compliqué parce que, quel rapport avec le tzadik? Exactement, voilà, regardez. Est-ce que je dois épouser cette femme ou je ne dois pas épouser cette femme? Quel rapport avec le tzadik?
Non,
quel rapport?
Ils vont parler d'affaires qui marchent, pas d'affaires qui marchent pas.
L'affaire Baruch HaShem.
C'est des affaires à long terme. Très long terme.
Chaque jour que tu passes, c'est que l'affaire va marcher.
C'est des actions à long terme. Alors, bon, on va essayer de développer,
on
d'accord.
On va s'attaquer au prophète. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voit dans tes...
Non, le prophète, c'est autre chose. Le prophète, il est dans son rôle. Le prophète, il est dans son rôle. Le prophète, c'est comme, par exemple, à l'époque du Beth Amikdash, on allait voir le Kohen Gadol pour lui poser la question. Est-ce qu'on va en guerre ou on va pas en guerre? Mmh. Vous reconnaissez l'histoire avec le Rochen. Il avait les lettres qui s'éclairaient pour dire oui et non. Ça, c'est pas étonnant parce qu'il est dans son poste. C'est son poste de donner des réponses, oui et non, de transmettre des informations venant du ciel. Ça, c'est bon. La question qu'on se pose, c'est quand on va voir un chacham. Parce que aujourd'hui, on n'a pas de prophète, on est d'accord. Le prophète, on n'en a pas aujourd'hui. Un vrai prophète, c'est quelqu'un, par exemple, qui vient... Un vrai prophète, d'accord. Aujourd'hui, on a peut-être... C'est quelqu'un qui a la prophétie, d'accord. Et qui vient annoncer des choses, et qui dit, faites teshuva, sinon ça et ci va arriver, d'accord. Et qui donne des dates, qui donne des choses très précises, et ça, aujourd'hui, on n'a pas. On a des pseudo-prophètes. D'accord, on a vu par exemple chez les tzadikim, chez le rabbi, etc., des choses qui ressemblent à la prophétie. Mais la vraie prophétie, tant que ma chère n'est pas là, elle n'est pas là. Donc on n'a pas de vrai prophète. Donc la question qu'il pose ici, il dit, pourquoi vous me demandez des questions matérielles? Il dit, que ma marabotenu, on va développer un petit peu dans les mots. Zichronam livracha, les chachamim ont bien dit, dans la Gemara Brachot, que akol bide shamaim, chutz meirat shamaim. Tout est dans les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Ça veut dire que Dieu maîtrise tout dans le monde. Ah, dans ce cas-là, où est le libre arbitre? C'est parce que Dieu ne maîtrise pas la crainte de Dieu. Ça, il maîtrise pas. Est-ce que je vais avoir la crainte de Dieu ou pas? Mais Dieu maîtrise tout le reste. Donc, ton affaire, qu'elle va marcher ou qu'elle va pas marcher, c'est déjà maîtrisé par Dieu. V. La Gemara, toujours là-bas, elle dit, Shivat vari mechusim. Alors ça, c'est encore plus fort. La Gemara, elle dit qu'il y a 7 choses qui sont cachées d'un homme. Qu'un homme ne saura jamais. Parmi les 7 choses, c'est quoi? C'est, En Adam Yodea Bema Mistaker. Un homme ne sait pas de quoi il gagnera sa vie. Ça veut dire qu'il a beau faire 10 ans d'études de médecine, d'accord? C'est possible qu'au bout de ces 10 ans-là, il va trouver un brevet, il va trouver un truc, il va sortir un truc, aucun rapport avec les études qu'il a fait. La Gemara a dit clairement, elle dit, un homme ne sait pas de quoi il va gagner sa vie. Et ça, c'est plein de marchés, des histoires comme ça, des gens qui travaillent dans un métier qui n'a rien à voir avec ce pour lequel ils ont étudié. La Gemara a dit, un homme ne sait pas comment il va gagner sa vie, et, ou Malchut ben David Matay Tachazor. De la même manière, on ne sait pas quand Mashiach va venir. Pourquoi il ramène ça à Morazaken? Pour te montrer, il te dit, de la même manière, est-ce que quelqu'un ici peut dire quand Mashiach va venir? Tu penses qu'un tzaddik sait quand Mashiach va venir? Il connaît, il peut te donner la date. D'accord? C'est de la même manière qu'on connaît pas la date de Mashiach, on connaît pas comment on va gagner sa vie. On sait pas ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Donc avec ça, il veut expliquer sa question, il dit, regardez, on va pas réinventer la roue. Le problème qu'on a maintenant, c'est un problème qu'il y a toujours eu depuis tout le temps. On a vu qu'apparemment, les gens ne posaient pas des questions matérielles aux Tanaïm et à Moraïm, au maître de la Mishnah et de la Gemara. Et que pour eux, c'était considéré comme des choses qui sont cryptées et qu'il y a que Akadosh Baruch Hu qui sait et que c'est pas le rôle d'un tzaddik. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que là, il est en train de questionner ses racines, pourquoi ils le font. Maintenant, il va amener encore d'autres preuves. Est-ce que jusqu'ici, tout est clair? D'accord? Donc là, apparemment, pour l'instant, il a démonté. Celui qui dit ça, il dit, bon, ça sert à rien de venir voir le rabbi pour demander des choses matérielles. Il y a même d'autres lettres dans lesquelles il dit qu'il s'est rendu compte qu'à des moments, la majorité des demandes étaient des demandes matérielles. Quand on va voir un tzaddik, on va voir un tzaddik pour demander quoi? D'accord? Ça, c'est rare, ça. Hein? Bracha, ça veut dire quoi?
Non, mais il n'a rien pensé déjà. Mais on ne va pas raconter au tzaddik que...
Alors, monsieur, excusez-moi, je vais être un peu cru. Je vais vous poser une question, je vais être un peu cru. Vous allez voir un tzaddik, d'accord? Vous allez voir un rav. Vous avez dit qu'avant de vous lancer dans l'affaire, je vais vous poser la question pour essayer de vous mettre un peu devant le mur, excusez-moi. Donc, imaginez que vous comptez vous lancer dans une affaire, vous comptez acheter une affaire, vous comptez faire quelque chose. Vous allez voir un tzaddik pour demander une bracha pour l'affaire. D'accord? Attendez. Une bracha, 2 secondes. Vous dites au rabbi, donc vous allez voir le tzaddik. Alors, attendez, mais laissez-moi arriver jusqu'au bout. Vous allez voir le tzaddik, vous lui dire, voilà, je voudrais vous demander une bracha, je vais me lancer dans telle et telle affaire, je vous demande une bracha. Le tzaddik qui vous dit, ne la fais pas l'affaire. Qu'est-ce que vous faites?
Si je lui demande un conseil.
Non, vous n'avez pas demandé un conseil, vous demandez une bracha.
De lui-même. C'est l'aide de lui-même.
De lui-même, il dit.
Alors là, c'est vrai qu'il me.
C'est compliqué. C'est un problème.
Confiance. C'est pas compte tenu que j'ai été le voir.
Et c'est une affaire pour vous qui est.
Non. Ouais. Ça, c'est un problème de conscience. Et c'est à moi de prendre la décision.
Mais est-ce que vous allez vous dire, je ne l'ai pas demandé, est-ce que je l'ai fait ou pas? Je lui ai demandé de m'aider. S'il va m'aider, il me dit, bon, je ne l'aime pas bracha, mais qu'il laisse tranquille.
Je ne crois pas.
Devant l'histoire.
Vous voyez comment quand on est devant le mur, c'est plus compliqué.
Oui, non, mais dans ce cas-là, si jamais lui, il me dit pourquoi je suis venu le voir et pourquoi je lui ai demandé la bracha, il était.
Non, bon, vous...
Déjà, je suis surpris.
Vous l'avez raconté. Je dis voilà, je vais faire.
Si je lui ai raconté l'affaire que je fais.
Mais sans lui demander, vous voulez l'affaire. Pour vous, c'est une bonne affaire.
Non, mais si jamais je lui raconte, automatiquement, je rentre dans le coup. Et il va réfléchir comme moi.
Et s'il vous dit ne le fais pas? Pourquoi vous allez avoir un dilemme?
Alors, c'est ça l'histoire. Dès que je me mets à raconter mon affaire au Rav, donc je tiens à avoir une réponse négative ou positive. À ce moment-là, c'est à moi. Je sais. Mais si jamais je ne lui parle pas de l'affaire et qu'il lui me dit attention,
ah, ça c'est oui, bon. Ah, oui, non, non, là c'est prophète, là c'est. Non,
mais c'est ça l'histoire. Moi, je ne vais pas pour ça. Je vais chez le Rav, je lui dis faites-moi une bracha. Je dois faire une action. Je veux une bracha. Moi, allez, maintenant il me dit.
Je veux une bracha, il me dit.
Non, ne le fais pas.
Mais si
je vais vous expliquer quel est le dilemme. Comme Michael a dit, c'est quelque chose que tant qu'on n'est pas devant, on ne peut pas répondre. Je vais vous expliquer quel est le dilemme. Le dilemme qu'on aura, c'est qu'en vérité, quand moi je suis venu voir le tzaddik, je me suis dit, bon, je viens me donner une bracha, parce que c'est un bon avocat, parce que il va bien me représenter devant un Kadash Baruch Hu, et je vais mettre toutes les chances de mon côté. Quand je vais voir le tzaddik, et que le tzaddik me dit, ne la fais pas, le doute que j'ai dans ma tête, c'est que je me dis, mais attends, est-ce qu'il... Je lui ai raconté, mais je ne l'ai pas demandé son avis. Je lui ai demandé sa bracha. Je ne t'ai pas demandé est-ce que je le fais ou je ne le fais pas. Quand le tzaddik dit ne le fais pas, quel est le dilemme qui se passe dans ma tête? Je vais vous raconter le dilemme. Le dilemme qui se passe dans ma tête, c'est d'un côté, je me dis, attends, s'il m'a dit de ne pas la faire, c'est qu'il sait de quoi il parle. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire, mais c'est pas son domaine, de quoi il se mêle? Je ne l'ai pas demandé est-ce que je le fais ou je ne le fais pas. Je lui ai demandé une bracha pour le faire. Si vous me donnez une bracha, que la donne pas. Et ça, c'est le dilemme qui se passe dans la tête. Et c'est pour ça qu'on a du mal après à décider.
Non, mais ça, c'est un raisonnement. Ça, c'est pas
et pareil. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On la fait ou on la fait pas l'affaire?
Non. Parce que moi, si je demande à un rabbi de me donner une bracha, je lui dis pas, je le mets pas dans les confidences de l'affaire elle-même.
Et s'il vous demande, raconte-moi l'affaire.
Elle présente beaucoup de technicité, beaucoup de choses que lui ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas.
Voilà, donc vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ici?
Alors, donc, moi je ne lui demande pas ce qu'il ne maîtrise pas, je lui demande ce qu'il maîtrise.
Très bien.
Je lui dis, donnez-moi une
bonne. Le problème.
C'est ce qu'il veut dire.
C'est exactement ce qu'il veut dire.
C'est ce qu'il veut dire.
Le problème, c'est quoi? C'est que les chassidim ne font pas ça. Pas que les chassidim d'ailleurs. C'est que très souvent, les gens, quand ils vont voir un tzaddik, ils ne demandent pas seulement, ils disent pas, je veux lui parler ce qui le concerne. D'accord? Il lui parle, ça veut dire qu'il va lui expliquer l'affaire et il va lui poser des questions. Il va dire, voilà, d'après vous, est-ce que je fais ci ou je fais ça? Et le tzaddik doit répondre. Quel rapport? Il n'est pas dans son domaine. Donc, on va maintenant développer point par point.
Alors, je pose une question. Il y a des gens qui vont pèleriner un saint.
Ça, c'est trop chaud.
Attendez, hein. Non. Et ils font des demandes. Et vous savez, dans une tête, beaucoup de choses peuvent se passer. Il y a beaucoup de... Chacun, il a ses petits embêtements et tout, et il demande, est-ce qu'il a le droit de le faire?
Bien sûr qu'il a le droit. Mais il n'attend pas de réponse.
Non, mais il le fait.
C'est une bénédiction, c'est une bracha.
Mais il le fait pour...
Oui, oui.
Voilà, c'est tout.
Il n'attend pas de réponse.
C'est exactement...
Là, on parle de question-réponse. Justement, c'est là que ça devient compliqué.
C'est ça qu'il veut dire, c'est pas ça, justement.
Ce qu'il veut dire, il dit, tu me demandes de prier pour toi, tu me donnes ton prénom et le prénom de ta mère, je vais prier pour toi, avec plaisir. D'accord?
Mais
tu me poses des questions, tu me dis, je fais ou je fais pas? Mais
si je te pose des questions,
d'accord?
Mais justement, c'est qu'il
ne reprend pas.
Mais non, mais eux, c'est qu'ils reprochent, c'est ça, c'est que les gens venaient.
Monsieur Ben David, si un, bon, bien sûr, je peux vous donner comme exemple ce qu'on faisait chez le rabbi, mais il n'y a pas que chez le rabbi. Quand vous allez voir tous les grands rabbanim en Israël, restez 5 minutes à côté, regardez le style de question qui est posé.
Oui.
Vous allez voir. C'est exactement ce qu'il est en train de dire ici.
Le chef de l'état-major,
il s'appelle le Röntgen.
Mais plein.
Et il y en a plein. Ils se prennent pour des prophètes et ils te disent, voilà, vous allez avoir ci, vous allez
avoir ça. Bon, ça, c'est autre chose, ça.
Ils en parlent dans la moindre numéro.
Ça, c'est autre chose.
Lui, il s'est fait une bracha tout seul, le gars, dont tu parles.
Alors, il s'est béni. Bon, ça, on va pas rentrer dans le... Ça va, je crois, à Shinsen, ce soir, on va pas faire le Shonara.
On a fait un poids, le Shonara, attention.
Mais tout ce que je peux vous dire, on a appris la croix de la Shonara, on a dit qu'on n'a pas le droit de faire la Shonara, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut faire attention aux charlatans.
Voilà.
Et qu'il y en a beaucoup en Israël, beaucoup. D'accord? Beaucoup qui veulent juste tirer l'argent. Dès qu'ils voient un touriste, ils veulent tirer son argent. D'accord? C'est beaucoup. J'ai beaucoup d'histoires que j'ai entendues. Des gens qui m'ont raconté.
Oui,
d'accord.
Bien sûr.
Faire attention.
Comment on les reconnaît? C'est marqué
Non, mais il y a aussi.
Écoute, c'est simple.
La Torah Bitesse, quoi.
Dès que c'est lié à l'argent, c'est déjà flou. Dès que c'est lié à l'argent, c'est déjà flou.
Ouais.
Le rabbi, non seulement qu'il demandait de l'argent à personne, il donnait de l'argent.
S'il a une casquette de banquier, c'est...
Non, mais en général, on n'a jamais vu que Moshe Rabbeinu, il demandait de l'argent aux gens quand il venait. Tu comprends? Dès qu'on demande de l'argent, c'est déjà flou.
Il aurait dû, on aurait eu du pétrole. On aurait eu du Qatar.
Je continue maintenant. Il dit... ומה שכתוב בישעיה יועץ וחכם חרשים וכן מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה ונהנים ממנו עצה ותושייה. Il dit, mais attends, il dit, mais moi je peux questionner ce que tu viens de me dire. Toi, tu viens de me dire jusqu'ici maintenant qu'a priori le rôle d'un tzaddik n'est pas de lui demander des choses, des questions de la vie matérielle. C'est pas son rôle, il n'est pas dans son poste. D'accord? Mais pourtant, j'ai une preuve contraire. La Gemara a dit qu'un talmid racham ne'eni mimenu etza vetushia. Que les gens profitent de lui des bons conseils et qu'ils prennent la force. Ah? Voilà, tu vois, c'est écrit dans la Gemara que les gens demandent des conseils au tzaddiki. Il dit non, t'as rien compris. Il dit aïnu bedivre Torah anikrat toshia. Il dit, quand on te parle des conseils, quand on te parle de prendre la force, c'est quoi la force? La force, c'est la Torah. C'est-à-dire, quand une personne voit qu'il a du mal, il est faible dans la Torah, il a du mal à ressentir la chaleur de la Torah, il va aller voir un tzaddik, le tzaddik, il va lui mettre un, il va lui remettre la chaleur de la Torah, et il va repartir. C'est qui lui a posé la question? Ça, c'est logique.
C'est qui lui a posé la question?
Personne. C'est une lettre qui est venue de Morazaken. Personne n'a posé la question. Quoi?
Qui a ramené la preuve?
Ah non, 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 c'est
de lui-même,
dans sa lettre, c'est un développement, oui. Il dit, je suis à la page, alors j'ai pas les mêmes...
267.
Ouais. Oui, c'est en bas?
En bas, vraiment les trois... tu vois, trois bons derniers, là.
Ah d'accord, ok. Merci.
Alors, il dit, que Mahamar Rabotenu Zichronam Livracha, comme les Chachamim ont dit, Yoetz, Zeshiyodea le Aber Shanim, Vinikboa Chodashim. Voilà, ce soir c'est Rosh Chodesh Nissan. Ashgacha Pratit. Rosh Chodesh Nissan, c'est le premier Rosh Chodesh. Premier Rosh Chodesh qu'on a eu. Et on dit que Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu, il a donné le secret du Rosh Chodesh, alors Moshe Rabbeinu n'arrivait pas à comprendre. Chaque Akadosh Baruch Hu, il a dû lui expliquer, il a dû lui montrer. La Gemara a dit comme ça. Elle dit que quand on parle de Yoet, celui qui est capable de conseiller, de quel conseil on parle, on parle d'être capable de comprendre la Chorma du Kiddush HaChodesh. Parce que le calendrier hébraïque est un calendrier qui est compliqué. Parce qu'il doit se calquer en même temps sur le calendrier solaire et en même temps sur le calendrier lunaire. Les mois sont calqués sur le calendrier lunaire. Et les années sont calquées sur le calendrier solaire. Parce que regardez, par exemple, dans le calendrier musulman, qui est calqué uniquement sur le calendrier lunaire, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils ont un décalage, ça veut dire que leurs fêtes ne tombent pas toujours au même moment de l'année. Des fois c'est au début, des fois c'est au milieu, des fois c'est à la fin, ça s'est décalé. Et nous, on a un problème. C'est quoi le problème que nous on a? C'est que nous, à Kadosh Baruch Hu, il a dit que Pessah doit... Normalement, on aurait dû être comme les musulmans, mais on a un problème. C'est que nous, à Kadosh Baruch Hu, a dit que Pessah doit toujours tomber au printemps. Donc dans ce cas, on a un problème, parce que si tu calcules sur les années lunaires, t'es bloqué. Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce que l'année lunaire est plus courte que l'année solaire de environ 11 jours. 11 jours, 33, je crois. Enfin, 33, d'accord? Donc, ça veut dire, elle est plus courte. Donc, ça veut dire que, au bout de 3 ans, d'accord? 3 fois 11 jours, ça fait un mois d'écart. D'accord? Au bout de 6 ans, ça fait 2 mois d'écart. Et donc, il y a un écart qui se fait automatiquement. On peut rien y faire. C'est pour ça que dans le calendrier hébraïque, tous les 3 ans, on a un deuxième mois pour récupérer, d'accord, 3 fois 11. D'accord? Bah oui, c'est pour ça qu'on l'a.
C'est tous les 3 ans.
Mais c'est très complexe. Pourquoi c'est très complexe? D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de critères dans le calendrier hébraïque. Dans le calendrier hébraïque, par exemple, il y a des règles, comme par exemple, on te dit que le premier jour de Rosh Hashanah ne peut pas tomber ni un dimanche, d'accord? Ni un mercredi et ni un vendredi. D'accord? C'est des règles, il y a des règles comme ça. D'accord? C'est jamais.
Non, c'est pas alors, Rosh Hashanah, c'est Kippour qui doit pas
non.
tomber un dimanche.
L'eau à doux roche. Le premier jour de Rosh Hashanah, mais il pouvait être sur le calendrier. Il peut jamais tomber ni un dimanche, ni un mercredi, ni un vendredi. Jamais. D'accord?
Bah oui, sinon ça ferait vendredi, Shabbat.
Il peut tomber un Shabbat, premier jour. Je parle du premier jour de Rosh Hashanah.
Mais c'est lié le fait que tu dises Rosh Hashanah, ça peut commencer que tel jour.
Kippour ne peut pas tomber un vendredi. C'est la journée de Kippour.
Oui. D'accord?
Bah samedi, oui.
Samedi, oui.
Ni un vendredi soir et
samedi. Samedi peut tomber.
Jeudi soir, vendredi.
Jamais. Jamais. D'accord, donc on a...
Et comment c'est fait
c'est... Et donc justement, donc c'est un calendrier qui est très complexe. Alors ça, il dit, la Gemara a dit que pour ça, il faut un chacham pour ça. Pour être capable de faire ce calendrier, aujourd'hui il y a des programmes informatiques, mais d'accord, il y a des algorithmes, mais c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Surtout quand on doit le faire qu'avec sa tête. Ça, il faut un chacham pour ça. Ça, là, il est dans son poste. Tu vas lui demander, tu lui dis c'est quand Rosh Chodesh, d'accord? L'année lunaire, l'année solaire, est-ce qu'il y a 2 mois, est-ce qu'il y a 1 mois de Hadar? Ça, c'est son poste. D'accord? Ben, il a été mis en place progressivement. En fait, à l'époque de la Gemara, même à l'époque de la Mishnah, il n'y avait pas le calendrier perpétuel qu'on a aujourd'hui. À l'époque de la Gemara, c'était un calendrier, ce qu'on appelle le calendrier par la vue. Ça veut dire que, il fallait que des témoins voient la lune, et dès qu'ils venaient témoigner au Beit Din de Jérusalem qu'ils avaient vu la lune, on déclarait ce jour-là Rosh Chodesh. D'accord. Donc c'est pour ça que des fois on avait des mois à l'époque, des fois de 29, des fois de 30, des fois de 31 même. Chose qu'on n'a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le calendrier hébraïque, il n'y a plus de mois de 31. D'accord ? 29, 30, c'est tout.
Mais les témoins, ils ne venaient pas. Par exemple, le mois d'Adar, c'est toujours 29 jours ou un truc comme ça ?
Oui, il y a des critères, oui, il y a des paramètres. Oui. Il y a des mois par exemple. Oui, il y a des mois, des fois que. Par exemple, mais il y a des exceptions, d'accord ? Pour vous compliquer un peu les choses. Le mois de Cheshvan et le mois de Kislev. Il y a des années dans lesquelles le mois de Cheshvan a 29 jours, le mois de Kislev a 30 jours. Il y a des années dans lesquelles le mois de Cheshvan a 30 jours et le mois de Kislev a 29 jours. Il y a des années dans lesquelles les deux ont 29 et il y a des années dans lesquelles les deux ont 30. Parce qu'on a un cycle de 19 ans et chaque année est différente. Chaque année a sa particularité. C'est-à-dire, par exemple, cette année, c'est une année qui ressemble à l'année dernière. Donc, par exemple, là maintenant, l'année dernière, le 29 Adar était un lundi, comme aujourd'hui. D'accord? Et pourtant, cette année n'était pas comme l'année dernière. Il y a des fêtes qui ne tombent pas la même chose. Ça veut dire que c'est très complexe, le calendrier hébraïque. Ça, c'est le rôle d'un rabbin. Ça, il dit, parce qu'il pose la question, il dit, voilà, la Gemara a dit qu'on demandait conseil au rabbin. Il dit non. Il dit, tu regardes la suite de la Gemara, la Belle dit, quels conseils on leur demandait? Les conseils liés au calendrier. Que ça, comme c'était quelque chose qui était très complexe, des fois, les rabbins locaux n'arrivaient pas à se débrouiller. Donc on devait aller voir les grands rabbins de Jérusalem, et dans Jérusalem même, les grands rabbins du Sanhédrin, pour demander conseil. Mais conseil sur quoi? Sur le calendrier. Ou sur tous les cas complexes qu'on n'arrivait pas à résoudre. Mais ça veut dire qu'on allait demander conseil, encore une fois, pas pour des problèmes de la vie. On allait demander conseil pour des problèmes de la Torah, mais qui étaient complexes. Et c'est logique, d'accord? C'est comme, il y a un tribunal de proximité, on appelle ça comme ça, un tribunal de proximité? On appelle ça les petits tribunaux qui gèrent les petites affaires. D'accord? Et après, plus. Voilà. Il y a petite instance et grande. Comment? Instance et grande instance. Voilà. Donc, instance, d'accord? C'est pour les affaires classiques. Et quand après, ils sentent les juges que ça les dépasse, que c'est. Il faut le surclasser. Et après, quand eux, ils sentent que c'est trop, on surclasse. Après, c'est Bruxelles. Après, c'est etc. Ben, c'est comme ça. Donc, c'était comme ça aussi à l'époque. Ça, c'est et de ça. Là, on avait besoin de des conseils. C'est-à-dire que là, on comprend qu'on allait voir les grands pour demander conseils, c'est juste qu'on n'arrivait pas à régler. Mais encore une fois, c'était des sujets de la Torah.
Il se déclare incompétent.
Oui. Quand il n'arrive pas à régler, il dit, écoutez, on n'est pas compétent pour ça. Mais encore une fois, c'est uniquement des choses qui sont liées à la Torah, pas le reste. Qui est des Ita, Besanedrin, Dav, Pezaïn, Ayensham et Purush Rashi. Bon. Maintenant, je suis au paragraphe, commence à Haïmet. Maintenant, l'Admor HaZaken va parler de son cœur. Allez, chers amis. Donc, si on suit la fin du premier paragraphe, jusqu'à la fin de ce premier paragraphe, qu'est-ce qu'on comprend a priori? Il en a mis plein sur la tête aux chassidim en leur disant, écoutez, 50% de vos demandes, a priori, il n'y a pas de raison que vous venez me les demander.
Oubliez-moi.
D'accord. Ça, c'est que le début de la lettre. Maintenant, il y a la suite. Il dit, ah, mais, à émettre la guide de chemin. Je vais vous dire la vérité. D'accord? Ça veut pas dire comment il mentait. Ça veut dire qu'avant, il a dit ce qu'il devait dire officiellement. D'accord? C'est officiellement, voilà ce qu'il devait dire.
Mais avec des appuis, des preuves.
Non, ça veut dire que quand tu étayes une idée, d'accord? Il y a d'abord, tu étayes l'idée de manière logique. Mais voilà, tu dis pas ça, forcément ce que tu ressens.
Logique.
Voilà. Ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, c'était logique. La logique, il dit, écoutez, logiquement, vous n'avez aucune raison de venir me demander.
Et maintenant, personnellement.
Mais ce qu'il va leur dire, il va leur dire, écoutez, ne croyez pas que c'est parce que tout d'un coup, je me suis levé un matin et j'ai dit, tiens, logiquement, ça va pas que je vous bloque. Non, non. La vérité, la vraie raison, c'est que sentimentalement, il y a un blocage. C'est ce qu'il va expliquer tout de suite. Parce que c'est pas tout d'un coup que ça s'est passé. Il dit, ah, seulement, à émettre à guide le chemimli. Je vais vous dire la vérité. Mais cette vérité, je vais la dire à ceux qui sont prêts à m'écouter. Alors encore une fois, quand quelqu'un il dit, je vais dire la vérité à celui qui est prêt à m'écouter, ça veut dire que, quand tu dis, je vais te dire la vérité, mais il faut être prêt à l'écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire, accroche-toi.
Mais c'est pour ça qu'elle dit,
accroche-toi. Ah, pas de plainte,
en fait, tout le monde là, il est...
Alors il dit, bah oui. D'accord. C'est-à-dire que là, il va là encore plus loin. Il dit, qui a Ava, mais quelqu'un est à Shura. Il dit, on sait ce que le principe que la Gemara a dit. La Gemara a dit que l'amour fait, le fait qu'on aime quelqu'un, fait que on ne garde pas la ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, dans le monde, il y a des normes qui sont acceptées. Que ça on peut faire, ça on peut pas faire. D'accord?
Ah oui, bon,
et quand une personne aime quelque chose, plus il aime la chose, et plus ça peut le pousser à faire des choses hors normes. Ça, c'est la Gemara qui dit. C'est-à-dire, la Gemara appelle ça une shura. C'est quoi une shura? C'est une ligne. Une ligne qui dit que voilà, tu peux pas franchir la ligne.
C'est la normalité.
C'est la normalité. D'accord? Qui dit que ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Ça c'est à droite, ça c'est à gauche. Mais à Ava, quand il y a de l'amour, c'est-à-dire quand on aime quelque chose, mais quelqu'un est achouré, on se retrouve à faire des choses que nous-mêmes on comprend pas pourquoi on les fait. Donc il va dire, donc là il va dire en vérité, je ne vous en veux pas que vous venez me poser des questions comme ça. Parce que ce que je me dis, c'est que comme moi je vous aime, Parce qu'entre un rabbi et des chassidim, c'est pas seulement une relation de maître et élève. C'est une relation presque de, presque comme on voit dans la Gemara, de père et fils. C'est-à-dire, il y a de l'affection. D'accord? Il y a de l'affection. Et donc, il dit, je comprends que comme vous m'aimez de la même manière que moi je vous aime, et on a expliqué que l'amour, des fois, fait que on dépasse, on fait des choses hors normes, les choses sont pas normales. Donc, c'est peut-être pour ça que vous venez me demander des choses qui sont pas liées à moi. Parce que comme quand tu aimes quelqu'un, ben du coup tu fais des choses qui sont pas normales. Qu'on a expliqué, d'accord? Donc il dit qui ava me kalkel et ashura ve iksut enayim shel lirot haemet merov avatam lechaye haguf, d'accord? Il dit qu'en vérité qu'est-ce qui se passe quand on parle de l'amour? D'abord il dit moi je vous aime, vous et vous m'aimez. Mais il y a un autre problème, c'est que chacun on s'aime à soi-même. Et quand on s'aime à soi-même, ça c'est très fort ce qu'il va expliquer ici. Lui va dire en vérité, moi je pense que vous-même, au fond de vous, vous savez que je suis pas la bonne personne pour venir me poser vos questions. Comme ça il dit, d'accord? C'est une grande humilité ce qu'il est en train de dire ici. Mais il dit seulement quoi? Il dit, pourquoi vous venez me voir? Parce que comme vous vous aimez beaucoup, et comme vous voulez trouver des solutions à vos problèmes, et que comme on a expliqué que l'amour fait pousse une personne à dépasser ses normes, d'accord?
À dévier.
Donc c'est peut-être pour ça que quand tu aimes quelque chose, eh ben tu te permets de faire des choses qui sont peut-être pas logiques. Velken, c'est pour ça. Eitev, charal, embetzarak, vraz, shalom, shemir, rem. Donc, voilà ce qui se passe. C'est qu'en vérité, il y a des problèmes qui arrivent dans votre vie. Je vais expliquer ce qu'il veut dire.
Non, le deuxième, le premier, j'ai compris. Attends. On peut dévier, mais le premier, c'est né sur l'homme qu'on peut dévier.
Bah oui. C'est que, quand par exemple, je te donne un exemple. Ouais. Tu vas, t'as une idée qui te passe par la tête, qui t'effleure à la tête, il te dit, c'est quoi, t'as un problème, va le raconter au tzaddik. D'accord? Alors, t'as ton cerveau qui te claque, qui dit, mais attends, mais quel rapport avec le sadique est le problème? C'est un problème physique, faut savoir, prendre une décision, est-ce que je prends cet employé, je prends pas cet employé? Ça n'a rien à voir avec le sadique. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Le problème te dérange tellement, c'est-à-dire tellement tu es attaché à ce problème, qu'à un certain moment tu dis, bon, écoute, je vois le sadique et c'est tout. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on quitte les normes. Quand tu es attaché à la chose, quand tu passes sentimentalement, tu fais des choses que toi-même tu comprends pas. Donc c'est ce qu'il explique ici. Il dit, en vérité, ce qui se passe, c'est quoi? Je termine la logique. C'est que, des fois, on est tellement dérangé par un problème, qu'on se dit, je vais parler à un tzaddik et le tzaddik va régler le problème. Alors, il va taper très fort ici. Bon, encore une fois, comme je vous dis, aujourd'hui, on demande quand même des questions au rabbi. Mais lui, il dit, ça veut dire quoi quand vous venez me demander une question à moi? Est-ce que c'est pas un manque de bitachon? Est-ce que c'est pas un manque de confiance en Dieu? Que tellement le problème vous dérange, et apparemment, vous n'avez pas confiance en Dieu, donc vous venez me voir du style, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais vous débarrasser du problème? Mais si Dieu a décidé de donner le problème, qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce que tu viens me demander? Qu'est-ce que je peux te rajouter par rapport à ce que Dieu a décidé pour toi? Donc, je suis obligé de dire que le problème te dérange tellement que ça te pousse à faire des choses hors normes.
C'est peut-être de la confiance en soi aussi pour se rassurer.
Mais c'est pas de l'amour en soi-même.
Si. Comme tu t'aimes à toi-même, donc le problème te dérange, donc tu veux régler le problème. Donc le problème te dérange.
Non, ou tu n'as pas la solution toi, et puis généralement tu demandes conseil. Ça peut être conseil à quelqu'un que tu penses être un expert en la matière, ou le rave.
Pourquoi tu m'en conseilles à quelqu'un qui n'est pas adapté pour ça?
Des fois, c'est un avis extérieur.
Attendez, il aime tellement cette attention, parce qu'on est, vous parlez d'un amour. L'amour, oui. Il peut être un amour, l'amitié entre le rab et entre deux rabs. Quand il veut faire quelque chose, il lui demande un conseil,
d'accord.
Tout simplement. C'est possible.
Oui.
Oui. Maintenant,
amicalement.
On ne va pas aimer quelqu'un... Aimer une femme, par exemple, qui t'a fait toutes les bêtises du monde entier pour pouvoir oublier, tuer même pour
oui, oui.
La voir. C'est vrai. C'est astillage.
C'est ce qu'il dit, oui.
C'est ce qu'il dit. Alors, peut-on demander conseil à un ami comme ça? Mis à part sa connaissance dans la Torah et tout.
Oublions, d'accord, ça c'est un ami.
C'est un ami.
Ça c'est en tant qu'ami, c'est autre chose. C'est pas de ça qu'il parle ici. Il dit.
Non. Comme on pourrait le demander à un ami, on le demande à un rabbin.
Là, il va attaquer le problème dans un autre sens. Il va dire, regardez, imaginez par exemple quelqu'un, Dieu préserve. D'accord? Imaginez, Dieu préserve, que ça arrive à personne parmi nous, chas v'shalom. Quelqu'un, il a dans sa famille quelqu'un qui est tombé malade. Il va voir un tzaddik. Qu'est-ce qui compte recevoir du tzaddik? Mais si Dieu a décidé.
Ouais.
Oui,
il va
faire une prière.
Bah, oui, c'est ça la question qu'il pose. Alors,
attends,
prie, attends,
peux te répondre.
Ouais, bah, attends,
non,
pas,
non,
bon.
Je peux te répondre.
Non, je peux répondre.
Vas-y.
Combien de fois il y a eu des réponses sur ça? Vérifie tes mezouzotes, vérifie. Parce que peut-être il a raté quelque chose, elle est tombée malade parce qu'il y avait quelque chose, alors Rabbi va nous diriger à réparer cette erreur pour plus qu'il soit malade.
Et si le tzaddik ne te donne pas de conseils techniques?
C'est qu'il n'y a pas.
Tu dis bracha v'atzlacha.
Voilà, au moins j'ai eu bracha v'atzlacha.
Mais pourquoi t'es parti le voir? Est-ce que c'est pas un manque de confiance en Dieu?
Non, c'est pas un manque de confiance.
C'est pas un manque de confiance en Dieu.
Non, c'est pour avoir une fierté.
Dieu a décidé quelque chose. Il a décidé.
Parce qu'on le sait qu'il. On sait qu'on. Justement, on le sait qu'on devait avoir quelque chose.
Ce qu'il dit, c'est ça. La faiblesse.
Non, mais si un médecin, il dit. Il reste 10 jours à quelqu'un. Tu vas pas baisser les bras. Tu vas pas te dire, mais attends, non, c'est pas possible. Il reste pas 10 jours.
D'accord, j'ai compris.
Intérieurement, tu. Tu vas pas te laisser abattre par ce.
Mais il pose.
Cet avis ou cette.
Ici la déviation par amour.
Oui, oui. Mais attendez, il a posé une question très simple. Il dit, regardez, imaginez, d'accord, parce que vous savez, des fois, pour poser la question, il faut poser un cas. Il va poser un cas classique. Il va dire, imaginez une personne que Dieu fait souffrir. C'est-à-dire que Dieu fait souffrir, je ne sais pas moi, il a des problèmes, par exemple, dans sa famille, avec sa femme, Dieu préserve, il a quelqu'un dans sa famille qui est malade. D'accord. Il va voir le tzaddik. Normalement, il défraye la chronique en allant voir le tzaddik. Pourquoi? Parce que normalement, le tzaddik, c'est pas son poste. Mais il le fait, parce qu'il aime le tzaddik, et il se dit, peut-être le tzaddik va m'aider. Il dit, mais attends, est-ce que tu n'as pas la émouna que Dieu t'aime comme ton père? Et si Dieu, tout en t'aimant comme ton père, il a décidé de te nettoyer avec ça, pourquoi tu veux que le tzaddik t'enlève ce problème? Ça veut dire, on dirait que kaviachol, si on peut dire, ce qu'il va dire ici, hein, c'est pas mes mots, qu'on a transformé Dieu en problème, et qu'on demande au tzaddik de nous sauver du problème.
Oh, mais alors, attends.
Est-ce que c'est pas déplacé tout
non,
ça?
Non, parce que. Non, mais regarde.
Il peut lui dire, on t'aime, il t'aime parce que.
Il vous embête, hein.
Non, mais regarde. Comme si je suis malade. Pourquoi je vais voir le médecin pour qu'il me donne des médicaments? J'ai la Emouna HM, il va me guérir.
Non, ça c'est pas la même chose.
Mais si.
Non,
mais si.
C'est pas la même chose parce que le médecin, d'accord, c'est dans la loi de la nature. Le tzaddik, c'est dans le spirituel.
Bah justement, c'est dans le spirituel que je veux.
Dans le spirituel, pourquoi tu parles au tzaddik? Parle à Dieu directement.
Non, c'est pas la même chose.
Bah, c'est pas la même chose.
J'ai pas le corps, justement. J'ai pas le corps. On est faible. J'ai pas le corps pour
ça change. Mais attends, mais excuse-moi. Dieu, quand il t'a envoyé la souffrance, imagine-toi, Dieu, enfin, pas toi. Ahmadinejad, d'accord? Allez, ça marche. Dieu, quand il a envoyé la souffrance à une personne, d'accord? Dieu, il a pris en compte que peut-être tu iras pas voir le tzaddik. Oui ou non? C'est possible que tu n'iras pas voir le tzaddik. Oui ou non, tu me suis ou pas? Écoutez, suivez ma question, c'est important. Dieu, quand il a envoyé la souffrance à monsieur Intel, monsieur Reuven, il a pris en compte que option A, il va voir le tzaddik va donner une bracha, option B, il ira pas voir le tzaddik. Ouais. Dieu aime monsieur Reuven. Et pourtant, il a quand même envoyé la souffrance, ça veut dire que Dieu a un but avec cette souffrance. Alors, comment le tzaddik peut enlever un but qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu?
C'est pas l'avertissement?
Non.
Mais on n'a pas dit qu'il va l'enlever, qu'il va faire quoi que ce soit.
Après, tu vas le voir, alors.
Bah, le tzaddik va lui répondre.
Après, tu vas le voir.
Mais c'est deux amis. Deux amis qui étaient vus ensemble.
Oui.
Et deux amis. Il y a un qui a un problème. Il veut se confier à un ami.
Ah, se confier, c'est autre chose. On ne peut pas se confier, là.
Non, on ne parle pas de ça.
Mais non, mais c'est un rave.
Non, mais on ne parle pas de se confier, là. Mais encore une fois, on ne parle pas de se confier, là. On parle de demander une bracha sur un problème matériel. Ça veut dire quoi? Tu espères quoi? Qu'est-ce que tu comptes que le tzaddik va attendre le problème, mais c'est Dieu qui l'a envoyé le problème. C'est compliqué, hein.
Alors, la réponse.
Pour l'instant, on est dans la question. Bonsoir.
Le biais de l'auto-vierge et le ravi.
Quand tu vas faire une prière,
mais si, vous êtes quoi?
C'est bon? Il est à peu près pas grandi.
Tu manges avec toi.
La prière d'un enfant,
il est là.
Il a la prière d'un homme.
Oui, alors.
Et la prière
de sa vie. J'ai fait une
remarque. Donc.
Donc, ça veut dire que par le biais de l'ascenseur rabbinique, sa prière, elle peut monter et intercéder en ta faveur auprès d'Akadosh Baruch Hu. Toi, ça peut te retomber et très bien.
D'accord. Moi, je vais te poser la question dans l'autre sens maintenant. C'est la science qu'on va développer ici. Dieu, quand il envoie une épreuve, c'est du bien ou du mal?
C'est du bien.
N'envoie jamais du mal, c'est impossible. Dieu, il n'envoie que du bien. C'est comme un enfant, par exemple, qui s'est sali. D'accord. Il se salit, il a une tache d'encre. Donc sa mère va devoir prendre une éponge avec un peu comme un truc jet slack, d'accord, comme ça. Elle va devoir le frotter. Il va pleurer parce que ça lui fait mal. Mais en vérité, d'accord. Si la mère elle le fait, c'est parce qu'elle aime son fils. Donc attendez, c'est évident que si, on parle de partir de la base que si Akadosh Baruch Hu envoie une souffrance à quelqu'un, c'est parce qu'il l'aime. Alors pourquoi moi je veux voir un tzaddik pour lui demander d'enlever cette souffrance? Pourquoi, en d'autres termes, pourquoi je vais contredire une décision d'Akadosh Baruch Hu? Mais est-ce que c'est du mal?
Mais c'est du mal pour la famille qui le vit.
C'est est-ce que c'est du mal qui est descendu d'Akadash Baruch Hu?
Non, c'est que du bien.
Non, c'est que du bien. Non, mais. Après, je lui demande de l'enlever alors.
Il ne demande pas directement enlever. Si tu lui demandes de la faire différemment.
Parce que si jamais on ramène tout à Akadash Baruch Hu, même quand il
donne. Mais là, on demande bien
de en train de casser le business.
Très chaleur. Pas du tout, pas du tout.
Le pèlerinage et ramener. Sourire qu'on fait qu'on ne sait pas parler.
On a l'habitude dans le Tania. Dans le cours de Tania, on a l'habitude que pour répondre à une question, il faut d'abord remonter à la source du problème. Il faut d'abord comprendre la chose à la base.
Bon, on n'est pas d'accord allé au bout, c'est ça.
On n'est pas encore allé au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Allez, donc, par exemple, il a voulu répondre à la question, il a dit, on va revenir jusqu'à Moshe Rabbeinu. Comment il a fait Moshe Rabbeinu? Comment ils ont fait les maîtres de la Gemara? Apparemment, on ne leur demandait pas des questions. Ah, vous décidez quand même de poser des questions? C'est pas écrit. Vous décidez de le faire? Vous défrayez la chronique parce que je vous aime, vous m'aimez? Très bien. Mais est-ce que c'est pas quelque part un manque de bitachon? Est-ce que peut-être c'est ça la raison pour laquelle dans la Gemara ils n'allaient pas demander? Parce que pour eux, ils acceptaient. Quand ils prenaient une claque d'Akadosh Baruch Hu, bah ils disaient si Akadosh Baruch Hu envoie une claque, c'est que j'en avais besoin. D'accord?
Tu viens de dire une claque, là.
Bah oui. Je vais pas, quand Akadosh Baruch Hu envoie une claque, je vais pas, quand mon père envoie une claque, je vais pas aller voir ma mère pour lui dire, ah, maman, papa, il m'a donné une claque, console-moi. Ma mère va dire, si papa, il t'a donné une claque et que tu l'as mérité.
Alors,
mais c'est pas normal, c'est pas normal si elle est là pour récupérer. Comprends, Akadosh Baruch Hu, c'est le père. Le père, il est là, il te met une claque. Tu vas voir le tzadik pour lui dire, hey, il m'a donné une claque. Il m'attend. Si il t'a donné une claque, tu l'as mérité. Alors, à quoi on joue ici?
Tu vas voir ton père, dit maman.
À quoi on joue?
C'est un bon exemple. Elle va le consoler, mais elle va pas dire que c'est pas. La mère, on va imaginer que c'est le tzadik, elle va le consoler, elle va l'apaiser. Mais
vous inquiétez pas, on va répondre à tout. Vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser comme ça.
Mais tu l'as cherché.
Vous savez, une fois, il y a un rave qui a dit comme ça. Il a dit, quand on pose une bonne question, on a intérêt à avoir une bonne réponse. Ben oui. Parce que si tu poses une très bonne question, les gens comprennent la question, etc., et qu'après, la réponse, bon. Mais la réponse, il nous faudra encore un autre cours pour arriver. Mais on va développer. Oh. On va commencer aujourd'hui. On va commencer.
Ah bah, ouais. Non, petit, petit.
Il faudra un autre gâteau.
Bon. On annule les prochains rendez-vous.
Ben, c'est la semaine prochaine, ce sera le prochain cours avant Pessah. Après, alors on dit comme ça. On dit.
Un cours à ne pas rater, quoi.
C'est dans deux semaines. Ah non, ne pas rater. La semaine prochaine, un cours à ne pas rater. Alors, on va reprendre à Achaemet. D'accord? On va prendre le paragraphe Achaemet. C'est bon?
Il enregistre.
Achaemet, Agid, les Chemimili. Donc, je reprends le grand Ach. Je vais dire la vérité, donc les Chemimili, à ceux qui m'écoutent. Qui a avant, mais quelqu'un est Ashura? Car, en vérité, quand on aime, d'accord, comme on a expliqué, mais quelqu'un est Ashura, ça fait que, peut-être pour ça, les chassidim se permettent de venir me voir alors que ça ne se fait pas. Donc, l'Admor HaZaken dit, moi aussi, je veux me permettre, comme je vous aime, de vous dire des choses que ça ne se fait pas de dire normalement. C'est vrai, quelqu'un vient te demander une question, tu lui dis pas, mais attends, tu crois pas en Dieu. Ça, tu peux le faire seulement si tu, vraiment, tu l'aimes et lui, il t'aime. Donc là, tu vas te permettre de faire des choses, de dire des choses directes. D'accord? Il dit, Veiné. Il dit quelque part, on devrait se poser la question. Est-ce que tellement on aime la vie de notre corps? D'accord? Les Shem Shamaim, il a vraiment, bien sûr que pourquoi on aime notre corps? Pour servir à Kadosh Baruch Hu avec. Berish fe'ej ve'shalvek de la me'avat nafsham et Hashem. Ve'alken etev hara la'em be'tzar aguf raz ve'shalam Hashem irachem. Que peut-être, en vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on vient d'expliquer à l'oral. Qu'en vérité, on est très dérangé par un problème. Un problème physique nous énerve, nous dérange. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à supporter. On peut pas accepter de dire, il y a un problème. Quand il y a un problème, je peux pas dire, bon, il y a un problème, c'est comme Dieu a décidé. Non. Ça me dérange. C'est normal que ça me dérange, parce que je m'aime. J'aime ma famille. D'accord? Quand on me raconte, par exemple, qu'il y a des gens qui ont un problème en Syrie, est-ce que ça me dérange? Non. Pourquoi ça me dérange pas? Parce que j'ai pas d'amour envers eux. Quand on me raconte qu'il y a un problème envers quelqu'un que j'aime, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de ma famille, ça me touche. Pourquoi ça me touche? Parce que je l'aime. C'est Ahava. Donc il dit, qu'est-ce qu'il dit Admor HaZaken? Il dit que comme on aime la personne, comme on aime la chose, comme on s'aime à soi-même, et comme le problème nous dérange, alors peut-être est-ce qu'on n'est pas parti trop loin hein, en étant dérangé et en ne pas acceptant le fait que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Ve'en yicholin klal, les kabel klal, et qu'on n'arrive pas à accepter les souffrances, ad shema vira maldatam, jusqu'à ce que ça nous rend fou. On voit malheureusement quand une personne a de la souffrance, ça nous rend fou. Les chatet raglem et ir le ir, qu'on va passer de ville en ville, de rabbin en rabbin. On dirait, on croit que le rabbin il va faire quelque chose. Ça c'est dans ces mots. Lishol et tzot merachok, d'accord. D'aller demander des conseils de loin. Il dit velo shaou el hashem la shuvela, mais il dit avant de voir le rabbi, d'accord. Est-ce que tu t'es posé la question si Akadosh Baruch Hu t'envoyait ça, il y avait peut-être un message qu'Akadosh Baruch Hu veut que tu fasses tes shuvah et que peut-être le jour où tu feras tes shuvah, ben tu pourras revenir. Alors bien sûr que si tu vas voir le rabbi dira ben écoute Dieu il veut que tu fasses tes shuvah. Mais cette réponse, tu aurais pu la trouver tout seul. Parce que tu dois partir de la base que Dieu, il t'aime. Et si Dieu t'envoie une souffrance, c'est pas pour t'embêter. C'est pas un appel de phare. Donc il dit en vérité, très souvent, la réponse, on l'avait déjà. Et on a envie de l'entendre de quelqu'un. Mais qu'est-ce que ça va te changer si tu l'entends d'un tzaddik? Elle est devant toi, la réponse. Pourquoi Kadosh Baruch Hu t'envoie, tu vois pas, c'est devant toi. Tu vois pas qu'il y a un blocage, pourquoi il t'envoie le blocage? Si elle envoie un blocage, c'est que Kadosh Baruch Hu veut qu'on fasse teshuva, veut qu'on vienne vers lui. Bon, c'est un pute, on nous avait prévenu, hein.
C'est-à-dire quoi, t'as pas réagi, c'est ta main,
donc. Non, c'est-à-dire que des fois, on a envie de se dire, oui, c'est un autre problème, on va enlever un tzaddik qui va enlever le problème. Il te dit, mais, très souvent, d'accord, il dit, le fait d'aller voir le tzaddik et de croire que le tzaddik va régler le problème, c'est peut-être un manque de bitachon dans Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu, s'il m'a envoyé ça, c'est pour mon bien.
Mais quand t'as une épreuve, tu peux pas croire que ça t'arrive.
Vas-y.
Il y a un cours de Rabbi très intéressant qui dit que celui qui sait, c'est le Sourazamézi. Celui qui dit, qui accepte, qui dit, ah.
Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit que j'accepte.
Il faut toujours se battre constamment.
Bien sûr qu'on se bat.
Tu dis, ah non, c'est bon,
mais donc justement, il y a un problème dans celui-là. Oui, celui-là, il a un problème qu'il met sur la tête. Dieu, il envoie une épreuve. Il lui bloque toutes les portes. Tac, 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 tac. Et lui, qu'est-ce qu'il voit? Il dit, ah, bah, si les portes sont bloquées, il faut que j'aille voir un tzaddik. D'accord, je dis, mais attends, avant d'avoir le tzaddik, est-ce que tu t'es pas posé la question? Il y a pas un message, peut-être que Kadosh Baruch Hu t'envoie ici?
T'es pas
d'accord? Non, attends.
Oui,
si a... j'ai pas compris, mais si... excuse-moi, attends, une seconde. Si Dieu t'envoie, excuse-moi, si Dieu il envoie, une épreuve à une personne, d'accord, il prend en compte que peut-être il ira pas voir le tzaddik. Donc ça veut dire que normalement, je dois être capable de déchiffrer moi-même ce que Dieu attend de moi.
C'est pas ça, le pire, c'est qu'il en, les preuves qu'il envoie, c'est sûr que tu vas surmonter.
Oui, d'accord, mais tout le monde n'est pas capable de ça.
Pourquoi tout le monde, alors, dans ce cas-là, alors, ça veut dire, est-ce que tu estimes dans ce cas-là que Dieu envoie des messages qu'on n'est pas capable de décrypter?
Sûrement. Certainement.
Pourquoi?
Je suis sûr.
Parce qu'on n'est pas assez,
Ah, pourquoi il les envoie?
Ah, bah, ça,
pour la preuve. Justement, on va voir.
Dieu, il envoie des messages qu'on est capable de décrypter. C'est ce qu'il dit l'Admor HaZaken.
Oui, on arrive pas. Donc
il dit qu'en vérité.
On veut comprendre pourquoi et.
Alors, tu sais pourquoi on n'arrive pas? C'est qu'il explique ici. Il dit pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'on s'aime. Comme on s'aime, on n'accepte pas le problème. Non, mais c'est vrai, je parle pour moi. Comme je m'aime. Donc quand il y a quelque chose qui ne tombe pas comme je veux, comme j'aurais aimé que ça se passe, alors, ça me dérange. Et comme ça me dérange, qu'est-ce que je veux? Je veux régler le problème. D'accord? Je veux pas me poser la question pourquoi le problème est arrivé. Je veux régler le problème. Mais dis-moi, attends. Le problème, il est pas venu tout seul. Le problème, il y a quelqu'un qui l'a envoyé le problème, quelqu'un qui l'a mis devant toi. D'accord? Quelqu'un, il est en train de marcher, il marche. Dieu, il lui met un truc devant. Alors, il dit bon, ben, il y a un problème. Il contourne le problème, pas qu'il lui met un autre truc devant. Alors il contourne, hop, hop, et un autre truc devant. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah ben, il y a un problème, on va contourner le problème. Il dit, mais attends, mais tu remarques pas que si on te met des poteaux devant, c'est-à-dire que peut-être que Dieu, il attend que tu vas te poser la question, est-ce que tu dois aller là-bas? C'est peut-être ça le problème. Seulement, on le fait pas. Pourquoi? Parce que comme on s'aime, je vais définir le développement. Comme on s'aime, c'est ce qu'il explique ici. C'est que comme on s'aime, donc, laissez-moi juste finir le développement, après les questions avec plaisir. Comme on s'aime, on ne prend même pas le temps de se poser la question, est-ce qu'il y a un message de Dieu? Et c'est vrai, je parle même pour moi. Quand tu es à Kadosh Baruch Hu, tu envoies quelque chose, tu te poses pas la question de dire, est-ce qu'il y a un message? Tu dis, il y a un problème, il faut le régler. Alors je demande à un tzaddik qui va m'aider à régler le problème. Il dit, mais attendez, qui t'a dit que c'est un problème? Peut-être c'est un message. Et le jour où tu auras compris le message, il enlèvera le problème. Combien de fois dans la vie on voit des choses comme ça? Des fois, il y a un message que Kadosh Baruch Hu t'envoie.
Comment est-ce qu'on comprend le message?
Ah, voilà. Le message.
Petit que nous sommes.
Pourquoi on a du mal à intercepter le message? D'accord? On a du mal à intercepter le message. Voilà. Ah,
il y a un truc. On a gardé ta part.
Pourquoi on a du mal à intercepter le message? D'accord? Bonsoir. Allez, on finit en deux minutes. Attends, on finit en deux minutes. D'accord. Pourquoi on a du mal à intercepter le message? On a du mal à intercepter le message parce qu'on s'aime. Ce qu'il dit ici. Il dit velo shaou el hashem la shuvela veruach nemucha veachnat aguf lekabel tocharto be'ahava. Ça veut dire, c'est très difficile ce qu'il dit ici. D'accord? Mais c'est écrit que quand Akadosh Baruch Hu envoie une remontrance, il faut accepter, d'accord? La remontrance avec amour. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple que on serait parti voir le rabbi. D'accord? Ils sont vivants. Écoute la question. Imagine-toi que tu vas voir un grand tzaddik, tu vas voir le rabbi. Tu vas voir le rabbi et le rabbi, pas qui te met sur la tête. C'est remontrance. Pourquoi t'as fait ça? Tu vas être énervé contre le rabbi?
Non.
Pourquoi? Pourquoi tu vas accepter? Parce que tu te dis, il m'aime, il veut mon bien. Donc puisqu'il veut mon bien, je vais écouter ce qu'il a à me dire. Maintenant, on devrait se dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, s'il envoie une épreuve, c'est qu'il m'aime. Même si je vais pas forcément comprendre le message, mais c'est forcément qu'il m'aime. Donc, en tout cas, ce qu'il m'envoie, c'est sûr que c'est pour mon bien. D'accord? Dit ici l'Admor HaZaken quelque chose de très fort. Il dit en vérité, si on avait compris ça, on n'aurait pas besoin de venir demander à un rabbi des problèmes matériels. Seulement, le problème, c'est quoi? Ce que vous avez tous dit tout à l'heure, c'est qu'on est faible. On n'arrive pas à le faire. Oui. Ça, c'est la clé de la réponse. Que si, ça veut dire qu'en vérité, un tzaddik n'a pas besoin d'aller voir un autre tzaddik. Non, pourquoi?
On s'est renforcé.
Pourquoi? Parce qu'un tzaddik, d'accord? Un tzaddik, pourquoi? Parce qu'un tzaddik, quand il prend une épreuve, comme on a vu chez Yaakov Avinu, chez Avram Avinu, comme on a vu chez Yitzhak Avinu, quand il recevait des épreuves, d'accord? Il les acceptait, avec le sourire. Une personne comme ça, il n'a pas besoin d'aller voir un autre tzaddik pour lâcher son cœur et pour dire il y a un problème. Pourquoi? Parce que c'est comme si qu'il a pris une claque de quelqu'un qu'il aimait. Il va pas aller le raconter à quelqu'un d'autre parce qu'il a compris. Il dit, s'il l'a fait, c'est que c'est pour mon bien, c'est parce qu'il m'aime. Donc en vérité, c'est quoi notre problème à nous? C'est qu'on est faible. Et qu'on a du mal, c'est difficile, c'est ce qu'il dit ici. C'est difficile, on a du mal quand on reçoit une épreuve à se dire, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, il le fait pour mon bien. Donc comme on a du mal, on a besoin de pencher notre cœur devant un tzaddik. Et on a besoin des fois d'entendre des choses qu'on aurait dû trouver tout seul, de les entendre de la bouche d'un tzaddik. Donc a priori, c'est la raison numéro un pour laquelle on va voir un tzaddik pour des besoins matériels. Mais, d'accord? Après, on expliquera dans la Bezrat Hashem la semaine prochaine, qu'en vérité, quand on va voir un tzaddik, il y a encore une autre dimension. Mais ça, c'est la semaine prochaine. On expliquera la semaine prochaine que quand un chassid, il va voir son rabbi, le rabbi, il l'élève à son niveau. C'est-à-dire que le chassid, il était en bas, le rabbi, il est là. Quand un chassid, il va voir son rabbi, le rabbi, il élève. Au niveau du tzaddik, et automatiquement, il y a des choses qui, au niveau du tzaddik, vont se régler. Mais ça, il nous faut encore un cours pour développer que cette idée-là. D'accord? Ça, c'est une autre idée qu'il faut développer. Mais en tout cas, ce qu'on a compris aujourd'hui, la notion qu'on a développée aujourd'hui, on a expliqué que l'Admor HaZaken expliquait qu'a priori, à l'époque de la Gemara, ça n'existait pas. On n'allait jamais voir les rabbanim pour leur demander des questions matérielles. Ça n'existait pas. A priori, la raison pour laquelle on le faisait pas, c'est parce que les gens arrivaient à percevoir directement le message d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, on n'est plus aussi fort qu'avant. D'accord? D'accord? On n'a plus cette force-là, on n'a plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'aime tellement que, encore une fois, quand il y a un problème, je vois pas le message qui est au travers du problème. Je vois pas, on dit si tu mets un poteau, c'est pour me dire ne va pas là-bas. Je vois le problème. Ah, il y a un problème. Comment je vais faire? Donc c'est pour ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a du mal. On a du mal. C'est compliqué aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a besoin d'un rabbi. Mais la semaine prochaine, on va expliquer qu'en vérité, aujourd'hui, notre défaut va être notre qualité. Parce qu'aujourd'hui, comme on était bloqué, on va devoir faire appel avec les tzadikim. Alors, grâce à ça, aujourd'hui, on va réussir à développer des choses qu'à l'époque, la Gemara, c'est vrai qu'ils n'avaient pas besoin, mais comme ils n'avaient pas besoin, donc ils restaient à leur niveau. Nous, aujourd'hui, quand un chassid, il va aller voir son rabbi, et que le rabbi, il va le propulser à son niveau, on va obtenir des niveaux qu'à l'époque, la Gemara, il n'obtenait pas parce qu'il n'avait pas besoin. À l'époque, la Gemara, tu pouvais rester à ton niveau, Dieu t'envoyait un message, tu le comprenais. Aujourd'hui, tellement on a du mal, que le rabbi va être obligé de te propulser à son niveau. Mais quand il te propulse à son niveau, qu'est-ce que t'as gagné au change? Bah, t'as gagné que t'as été propulsé au niveau du rabbi. Et ça, c'est énorme. D'accord? Mais ça, il nous faut un cours que sur ça. Pour développer comment aujourd'hui on a gagné au change. Avec ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il est massé concrètement. On voit que chaque fois qu'on a des questions, on va demander au tzadikim. Et comment même l'Admor HaZaken lui-même va expliquer pourquoi, concrètement, il faut le faire. D'accord? Mais ce qu'on a compris, en tout cas, c'est qu'il faut savoir que il faut savoir que normalement on n'aurait pas dû le faire, et que normalement à l'époque la Gemara c'était pas comme ça, que si Akadosh Baruch Hu m'envoie un message, c'est que normalement ça veut dire que je suis en mesure de comprendre le message, du moins je suis en mesure de comprendre que c'est pour mon bien, même si je comprends pas forcément ce qu'il veut me dire, comme un petit enfant que sa mère est en train de le frotter, il comprend pas forcément pourquoi c'est un problème qu'il a une tache d'encre sur la main, peut-être qu'il comprend pas, mais il sait que sa mère lui veut du bien, ça il le sait. Donc c'est pour ça que ça le dérange moins. C'est pas comme si c'est un étranger qui l'a fait. Donc normalement, on devrait se sentir comme cet enfant-là, que ça lui fait mal, il pleure parce que ça fait mal. C'est ta question tout à l'heure. Ça fait mal, on pleure. Mais l'enfant, à aucun moment, il va se dire ma mère me déteste parce qu'elle a ramené toi. Jamais il va dire ça parce qu'il sait que sa mère veut son bien. Normalement, on aurait dû être comme ça. Quand à chaque jour où nous envoie une épreuve, on aurait dû se dire écoute Dieu, tu me nettoies. Je comprends pas ce qu'il y a à nettoyer. Je comprends pas pourquoi il faut nettoyer. Mais certainement que c'est pour mon bien. Donc tu le fais par un mot pour moi. Tu m'aimes, je t'aime. Aujourd'hui, on est trop fait pour penser comme ça. Aujourd'hui, on le voit en tant que problème. On voit, je me concentre sur j'ai mal, comment arrêter ce mal? Je vois pas qu'il y a ma mère qui est en train de me frotter, je vois pas ça. Je vois, j'ai mal, comment j'arrête ce mal? Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide des tzadikim aujourd'hui, mais ça, on développera la semaine prochaine. Comment un tzadik il fait concrètement pour nous aider? Ça, c'est la semaine prochaine. Voilà. Azak à tous.
Vous savez, l'autre nous a raconté, monsieur Fresh.
Oui.
Quand il était en médecine.
Oui.
Vous l'avez raconté?
Oui, vous l'avez raconté. Alors, racontez-la.
Ouais, donc, il était pratiquement, c'était le deuxième examen, il était bien placé. Il va voir un rabbin, et lui dit, voilà, je voudrais avoir une bracha. Enfin, il voulait pas trop le voir, ses amis lui disent, on va le voir. Et ils vont voir le rabbin, et il lui dit, voilà, je voudrais une bracha pour réussir mon examen. Il dit, t'appelles comment?
Alors, il ne sera jamais médecin. Alors,
lui, il dit, quoi ?
Tu ne seras jamais médecin. Il dit, tu vas voir, enfin, dans sa tête, il dit, tu vas voir, je vais... Et il travaille comme un anarch charné, et il rate médecine à une place, ou à un truc comme ça. Donc, il est pharmacien aujourd'hui. Et lui a dit comme ça.
Il est jamais médecin.
Ça, c'est un sujet qu'on devra développer la semaine prochaine aussi.
C'est dur, tu fais...
En vérité, on va expliquer que plus on s'approche de la fin des temps, et Akadosh Baruch Hu a amené au Am Israël, au Tzadikim, une pseudo-névoie. Mais ça, on devrait en parler la semaine prochaine, parce que ça, il faut être très prudent sur ce sujet. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont fait n'importe quoi avec ça.
Ils sont des techniciens dans un domaine où on peut demander
oui
un conseil. Dans la technique, ils sont des techniciens.
Mais là, on parle surtout de demander à un tzaddik quand il y a un problème.
Non, mais je suis d'accord. Voilà.